Mon ami, écoute ton Dieu. Mon ami, écoute ton Créateur. Il y a de l'espoir pour toi en ce monde.
Vous suivez en ce moment un séminaire de formation du club Jésus pour réussir, animé par Edgar Bidibi et Hermione Pouéban. Le club Jésus pour réussir a pour vocation de vous aider à vous épanouir et à prospérer en démontrant par les fruits qu'il vous fera porter que Jésus est bel et bien le chemin, la vérité, la solution et la vie.
Christ est la solution. Décharge-toi sur lui.
Le club Jésus pour réussir est situé à Sainte-Rita, au bord des pavés non loin de la station MRS. Vous pouvez nous joindre en visitant le www.jesuspourreussir.org ou en appelant le 00229 94 01 54 26. Club Jésus pour réussir, une initiative de Global Service Plus qui évolue dans le secteur de l'immobilier, de la formation, du marketing et dans bien d'autres. Visitez le www.globalserviceimo.com ou appelez le 00229 94 97 07 07 pour en savoir plus. Que Dieu vous bénisse.
Pourquoi continuer à souffrir ainsi? Puisque la solution existe.
Nous irons directement sur le thème. Et avant même de faire l'introduction, il y a certaines de vos questions auxquelles je veux bien répondre. Quand quelqu'un me dit, est-ce qu'un criminel a droit au pardon, je lui demanderai, est-ce qu'il est Dieu? Et combien de fois il offense Dieu? Et combien de fois Dieu le pardonne? Pensez-vous que être criminel, c'est être le pire qui existe? Dans le Notre Père, il y a une phrase dans le Notre Père que pendant que j'étais catholique, quand on arrive là, je mettais. On dit notre Père qui es aux cieux, tant, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Vous êtes en train de vous condamner sans le savoir. Parce que vous dites à Dieu de vous pardonner comme vous vous pardonnez. Mais comment est-ce que les hommes pardonnent? C'est la grande question. Est-ce que vous vous êtes déjà arrêté une fois pour voir, mais comment est-ce que nous nous pardonnons pour dire à Dieu de nous pardonner comme nous nous pardonnons? Ah ben oui. Chacun commence par méditer la phrase. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Ça voudrait dire, Seigneur, autant de fois que je ne pardonnerai pas mon prochain, ne me pardonne jamais. Autant de fois que je dis je pardonne, mais je n'oublie pas, pardonne-moi, mais n'oublie jamais mes péchés. Autant de fois qu'on dit, ce péché est si grave que je ne peux pas pardonner, on dit, Seigneur, mon péché est tellement grave que ne me pardonne jamais. Nous sommes liés par cette phrase-là. Alors, quand on parle du pardon, vous devez savoir que le pardon est essentiel dans la vie d'un homme, qu'il soit chrétien ou non. Qu'il soit chrétien ou non, le pardon est essentiel dans notre vie. Et sachez que notre épanouissement vient et nos victoires viennent de ce pardon-là, viennent de la capacité de pouvoir laisser tomber l'offense que l'autre a commise. Que cette offense soit préméditée ou non, soit consciente ou non, vous devez avoir cette capacité de pardonner. C'est ce qu'on appelle le pardon. La capacité à pouvoir dominer une situation. La capacité à pouvoir dominer une offense. La capacité à pouvoir dominer la douleur créée par l'offense. Et quelqu'un disait tout à l'heure, lorsqu'on parle de pardon, il doit forcément avoir l'offense. C'est vrai. Et ce qui peut briser la vie d'un homme, c'est le ressentiment. Le ressentiment, c'est quoi? Si quelqu'un vous offense, vous êtes en mesure de choisir d'abandonner complètement ce que cette personne vous a fait ou de garder, de réceptionner cette offense-là et de pouvoir vous comporter par rapport à cela. Garder cette offense durant des années. Le ressentiment est mauvais parce que le pardon vous libère de la douleur que quelqu'un a créée en vous. Mais vous, quand vous pardonnez, c'est qu'en réalité, celui qui vous a offensé là, c'est lui là, c'est sur lui que vous laissez la douleur de l'offense. C'est comme quand deux personnes sont ensemble et que quelqu'un, par exemple, te gifle dans l'intention que tu t'énerves. Ou peut-être que cette personne te domine d'une façon ou d'une autre et c'est que lorsqu'il va poser ses tas, tu vas réagir. Et parce que tu vas réagir, il pourra tenir un témoin pour te faire quelque chose. Mais lorsqu'il te porte ce coup-là et que tu ne réagis pas, qu'est-ce qui va se passer? Il est désarmé. Il est complètement désarmé. C'est pourquoi le pardon est essentiel dans notre vie, que ce soit dans notre vie professionnelle, dans notre vie, dans notre situation matrimoniale. N'importe où nous sommes, même entre chrétiens, le pardon vous ouvre la voie. Parce que qu'est-ce que Dieu va nous dire? Dans le livre de Marc, Marc 11, 26. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père céleste non plus ne vous pardonnera pas votre offense. C'est en ce verset-là que vous êtes liés par le Notre Père. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons nous aussi. Donc, il est obligatoire pour un chrétien ou non de pardonner. Est obligé de pardonner son prochain, quel que soit ce qui se passe. En évoluant tout à l'heure, je vais vous démontrer pourquoi il est obligatoire de pardonner. Quelqu'un a dit, est-ce que le pardon peut avoir des limites? La Bible dit quelque part, pardonner 7 fois 77 fois. Ça fait combien? 490 fois. Nous allons faire un petit exercice. Une année est faite de combien de jours? Le nombre de fois où Dieu nous demande de pardonner va largement au-delà d'une année. Donc ça veut dire, chaque seconde, là, quand quelqu'un vous fait quelque chose, libérez-vous. Je disais hier à Radio Tokpa que ma force est dans le pardon. C'est vrai qu'il y a des gens qui me demandent, mais que faites-vous pour être toujours souriante? Que faites-vous? Est-ce qu'on dirait que vous n'avez pas de difficultés, vous n'avez pas de problèmes? Je dis non, j'en ai. Mais je fais de ces problèmes-là. Je ne les fais pas, c'est-à-dire je ne les prends pas comme des soucis, mais je les mets à mes pieds et je marche dessus parce que Dieu m'a créé pour dominer toutes choses sur la terre, même mes émotions. Et un homme qui n'arrive pas à dominer ses émotions n'est pas un homme. Nous devons apprendre à dominer nos émotions en tant qu'homme. Parce que Dieu nous a créés pour dominer sur toutes choses sur la terre. Que tout soit assujetti à notre autorité, à notre pouvoir. Le pardon n'a pas de limite. Parce que quand vous pardonnez, là, vous payez quelque chose. Il y a une facture à payer quand vous pardonnez. Le pardon est sans limite. Quel que soit qui vous a offensé, qu'est-ce qu'il vous a fait pour votre santé à vous-même, pour votre épanouissement, pour vos victoires, vous devez pardonner. Le pardon n'est pas lié à l'offenseur. Le pardon est lié à vous-même, à votre propre vie et à votre propre santé. Si vous ne pardonnez pas, c'est votre problème. C'est vous qui allez mourir de soucis. Si vous ne pardonnez pas, c'est vous qui seriez complètement, c'est pas aigri à telle enseigne que vous allez vieillir plus tôt. Si vous ne pardonnez pas, vous aurez des maladies de cœur. Si vous ne pardonnez pas, il y a trop de choses qui sont liées à ça. Et à la limite, l'offenseur n'a rien à cirer de l'état dans lequel vous êtes quand il vous a offensé. Donc, vous ne pouvez pas me dire que, bon, si un imbécile, puisque j'entendais quelqu'un dire tout à l'heure, est-ce qu'on peut pardonner plusieurs fois un imbécile? Un imbécile, c'est vous qui savez qu'il est imbécile. Et s'il est un imbécile, c'est la raison majeure pour pardonner. Parce qu'un imbécile ne sait pas ce qu'il fait. Il y a un dicton qui dit, quand vous êtes en train de vous baigner dans la piscine et que le fou vient chercher votre habit, qu'est-ce que vous faites? Si vous sortez de l'eau, que vous vous mettez à courir derrière l'autre, qui est fou? Qui est fou? Pourquoi vous riez? Qui est fou? Ah, on ne saura plus, on saura dire. C'est celui qui est nu, qui est en train de courir derrière l'autre, qu'on traite de fou. Mais le fou, on ne le traitera plus de fou. Donc, autant la personne est un imbécile, un fou, comme quelqu'un disait tout à l'heure, un fou, un truc, un décérébré, tout ça, c'est la raison favorable même pour pardonner cette personne. Parce que quelqu'un qui est bien ne peut pas choisir délibérément d'offenser son prochain. Il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête. Donc il faut se mettre à prier pour. C'est ça en réalité. Donc vous ne pouvez pas me demander, mais est-ce que le pardon peut avoir de limites? Le pardon aura de limites si vous décidez de les lui donner. Mais quand vous les lui donnez, sachez que c'est la maladie qui suit et c'est votre propre vie qui en dépend. On dit, peut-on traiter de bête une personne qui pardonne l'infidélité de son conjoint ou de sa conjointe? Vous savez, les hommes peuvent traiter cette personne de bête. Et à 99,99% des cas, on les traite toujours de bête. Mais il y a un dicton qui dit, tous les jours pour le voleur et un seul jour pour le propriétaire. Et la Bible nous dit que lorsque vous pardonnez vos ennemis, lorsque vous leur faites du bien, c'est comme du charbon ardent que vous amassez sur leur tête. Est-ce que vous connaissez ce verset? La Bible dit que quand vous faites du bien à vos ennemis, à la limite, on peut même traiter le pardon même de criminel. Celui qui demande si c'est un criminel, c'est le pardon même, c'est en griffe qu'on peut traiter de criminel. Parce que plus tu pardonnes, tu livres cette personne entre les mains de Dieu. Parce que plus le Dieu va dire, à moi la vengeance et la rétribution. Ce n'est pas à nous les hommes de nous venger de ce qui nous est arrivé. Mais c'est à Dieu la vengeance et la rétribution. Quand tu as la maturité de pouvoir pardonner, par l'Esprit de Dieu, de dominer toute situation, ça veut dire que tu livres maintenant cette situation et toutes les personnes concernées entre les mains de Dieu. C'est vrai, Dieu est amour. Mais Dieu n'est pas con. Oui. Pardon? Romains 12, 19, lisons. Oui.
Ne vous vengez pas vous-même.
Mm-hmm. Oui.
Mais laissez agir la colère.
Laissez agir la colère de Dieu. Dieu est amour. C'est vrai. Dans tout son sens, il est amour. Il pardonne. Il nous aime. C'est-à-dire, il est le symbole de l'amour sur la terre. Mais la Bible nous dit, mais la colère de Dieu. Ça veut dire que Dieu n'est pas con. Il a sa colère. Donc c'est quand vous vous pardonnez, vous laissez la vengeance à Dieu, que dans sa colère, maintenant, lui se lève pour prendre votre défense. Continuez.
Car il est écrit, c'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête.
C'est la parole de Dieu qui dit, c'est pas moi. On dit, laissez la vengeance à Dieu. Mais, si ton ennemi là, il a fait, celui qui t'a offensé, et puis comme on dit là, on a attaché le ventre, comme on dit. Regardez vous-même le symbole, comment on l'explique en fond. C'est-à-dire, quand quelqu'un est fâché là, on dit, est-ce quand le ventre est bien attaché, quelque chose est attaché là, c'est bien serré non? Quand c'est serré là, qui souffre entre l'offenseur et l'offensé? Hein? C'est l'offensé qui souffre. Parce que toi, tu attaches. Tu ne dors pas. C'est-à-dire, toute la pression est dans ton ventre. Mais l'autre dort à la maison. Est-ce que c'est normal, c'est logique maintenant de rester sans pardonner quelqu'un et de dire qu'on a attaché le ventre? Dieu dit que quand quelqu'un te met dans cette situation-là, domine. Si tu n'as pas la force de dominer, demande pardon à Dieu. Dis à Dieu, aide-moi à le pardonner, Seigneur. Aide-moi, donne-moi même la force d'aller vers mon offenseur. Parce que lui n'a pas la maturité spirituelle qu'il faut pour comprendre cette situation. Donne-moi la force de m'approcher de lui. Et de lui dire maintenant, je te présente toutes mes excuses pour ce que je t'ai fait. Est-ce que quelqu'un a déjà expérimenté ça une fois? Quand vous faites ça, vous avez de l'autorité même sur celui qui vous a offensé. Même qu'il soit votre chef, qu'il soit le président de la République, qu'il soit n'importe quelle autorité, qu'il vous offense et que vous vous humiliez pour dire « Je te présente mes excuses pour ce que je t'ai fait », il est désarmé. C'est cette capacité-là que les hommes n'ont pas. Parce que nous laissons la chair agir. C'est pourquoi la Bible va nous dire que nous devons mourir à la croix avec Jésus par les eaux du baptême et ressusciter avec lui. Parce que quand cette masse-là, tant que cette masse-là spirituellement ne meurt pas, vous agissez à travers ça. C'est ce qu'on appelle le ressentiment. À moi, il ne peut pas me faire ça. Je ne suis pas son égal. Mais à moi, j'étais ici avant qu'il ne vienne. Ah non, moi, personne ne peut me faire ça. Ah non, 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 non. Nous ne sommes pas sur le même diapason. Et l'homme commence par réfléchir ce qui crée une barrière au pardon. Ça crée une barrière au pardon. Mais quand vous ne pardonnez pas, même quand vous regardez votre organisme, tout est lié. Laissons d'abord la Bible et revenons sur le plan humain. Quand vous êtes fâché, qu'est-ce qui se passe? Votre bile commence par sécréter de l'acide. C'est la forme la plus grave de l'ulcère. Vous savez, entre-temps, j'avais un problème de pardon. Je n'arrivais pas à pardonner. Parce que je m'énerve très vite et j'étais trop vindicatif. Heureusement que Jésus-Christ est passé dans ma vie pour laisser maintenant une place au pardon. Mais avant cela, je n'arrivais pas à pardonner. Et toutes mes journées étaient des journées d'échec. Il n'y a pas cette journée où je ne vais à l'hôpital pour faire de l'analyse de la gorge là. Et c'est comme par hasard, c'est après que j'ai compris que chaque fois que je vais là-bas, je fais ma crise d'ulcère et je vais à l'hôpital. Le médecin dit oui, on doit envoyer le truc là. Qui a déjà fait ça une fois? J'ai oublié le nom. Il y a un petit raccord au bout duquel il y a une lampe et c'est rond et on envoie ça à l'intérieur de votre estomac par la gorge. Oui, ceux qui souffrent d'ulcère. Endoscopie. C'est désagréable. Vous avez fait ça une fois? C'est désagréable. Il n'y a pas un mot pour expliquer ça. C'est désagréable. Comme le diraient les petits blancs là, c'est dégueu. Parce que vous ne mangez rien. Et vous imaginez le bout de cette histoire qu'on vous envoie dans la gorge est quand même assez gros. Et le raccord, il l'envoie. Et j'ai constaté que le médecin, je me demande, mais il est méchant, il sait ce qu'il fait, ou bien c'est quoi, c'est comme ça on fait l'analyse. Chaque fois que je vais à l'hôpital, il enfonce. Chaque fois que je vais à l'hôpital, il enfonce. À un moment donné, ça m'a étonné. Je dis, mais docteur, puisque c'est quelqu'un de très âgé, est-ce qu'on est obligé de chaque fois refaire le test là? Puisque vous avez déjà vu qu'il y a la plaie là-bas. Est-ce qu'on est obligé chaque fois de refaire cet exercice là avant de me traiter? Vous ne pouvez pas prescrire quelque chose? Il dit, voilà, c'est la question que j'attendais. Ça m'a étonné. Je dis, mais pourquoi alors? Il dit, oui, regardez. Je suis sûr que quand je vais vous poser la question de savoir qui vous a énervé, vous ne serez même pas en mesure de me dire qui c'est. J'ai dit oui, docteur, ils sont nombreux. Je ne sais pas, bon, qui m'a énervé, la crise est arrivée. Il dit très bien. Il dit deuxième chose, parce que vous ne savez pas qui vous a énervé, qui souffre. Il dit c'est moi. Il dit très bien. Vous savez pourquoi chaque fois je refais le test? Parce que c'est payant. Je vais vous faire dépenser autant et autant d'argent pour vous montrer que vous êtes en train de vous détruire vous-même et non les autres. Et il avait l'habitude de me prescrire un produit qu'on appelle Azanta, qui à l'époque, je ne sais plus combien, on vend ça aujourd'hui, à 18 000 et quelques la boîte. Azanta est à 18 000 et quelques la boîte. Et je devais prendre au moins 3 boîtes par mois. Vous imaginez? Plus le test, vous avez dit était, plus le test que je dois faire. Donc, je dépensais tout ce que j'avais. Ben, ça, c'était devenu comme on dit, on aime bien dire, ma maladie. C'est de ça que moi, je souffre. Mais quand il m'a parlé, je suis rentrée chez moi. J'ai dit, mais il a raison. Je ne sais même pas qui m'a énervée. Je ne sais même pas quelle situation m'a énervée. Je ne suis pas en mesure de le dire. Et je gaspille toute une fortune dans cette santé. Qu'est-ce que je dois faire au juste? Seigneur, aide-moi, parce que j'ai le dos au mur. Quand Dieu me dit, tu dois apprendre à pardonner. Mais attention. Quand vous prenez la décision de pardonner, Dieu vous fait faire un test. Parce que Dieu n'est pas con. Dieu veut voir jusqu'où vous avez pris la résolution de pardonner ou bien vous pensez que Dieu est comme nous, les hommes, à qui on peut blaguer, c'est-à-dire on peut donner des versions pas possibles, on peut blaguer Dieu, on peut dire bon, c'est pas grave, lui ne sait pas. Non, Dieu sait. Tenez-vous tranquille, c'est en ce moment que les gens vont vous offenser. Et ceux qui vont vous offenser, ce n'est pas des moindres. Qu'allez-vous faire en ce moment? Obéir à Dieu pour votre bien, parce que ce que Dieu vous demande de faire, c'est pour votre propre vie, pour votre santé. Allez-vous obéir à Dieu ou allez-vous dire, je ne pardonnerai jamais? Beaucoup de couples sont détruits par le manque de pardon. Beaucoup de couples sont détruits par le manque de pardon. Beaucoup de gens ont perdu leur emploi par le manque de pardon. Beaucoup de vies sont bousillées par le manque de pardon. Beaucoup de gens traînent des maladies depuis des années par le manque de pardon. Et toute leur vie, ils traînent des paquebots d'offenses dans leur dos. Ils drainent des situations de frustration et ils disent, béton, ouais, béton n'a rien fait. Le béton qui a fait ça là, c'est vous-même. Bien sûr. Ça vous étonne? Qu'est-ce qui vous étonne alors? Puisque je ne savais même pas celui qui m'a énervé.
Vous avez posé la question, vous ne vous rendez pas compte de qui vous a énervé même.
Parce qu'ils étaient nombreux. Mais c'est pour vous dire que chaque minute de ma vie...
Mais alors maintenant, qui pardonnait en ce moment pour
oui, guérison? Pourquoi? Parfois, nous ne savons même pas qui nous a offensés. Et ce n'est pas la situation actuelle qui vous rend comme ça. À force de ne pas pardonner une personne, vous drainez déjà une partie de la maladie. L'autre vient s'ajouter. Une troisième personne vient s'ajouter. Ce qui est sûr, ce que Dieu nous demande, puisqu'il a dit dans la Bible, pardonnez 7 fois 77 fois, qui dépasse même une année. Donc chaque jour, nous devons pardonner, chaque jour sans réfléchir. Parce que quand on fait 7 fois 77, ça donne 400, comme vous aviez dit. Donc ça veut dire, toutes ces personnes qui m'énervent en réalité, je dois leur pardonner. Je dois les pardonner. Je réponds rapidement aux questions, je viens là, hein. Je n'ai pas encore commencé le séminaire. On dit, celui qui commet l'infidélité, même si vous ne voyez pas, Dieu voit. Si vous pardonnez, si vous traitez de bête là, acceptez. Pardonnez non pas pour celui qui commet l'infidélité, mais pardonnez parce que vous obéissez à Dieu. Et laissez le reste. Quand vous allez voir Dieu, lui-même prendre votre vengeance, c'est là où vous-même vous allez vous agenouiller encore. Si c'est un mari, vous dites Seigneur, pardonne-le. Ah Seigneur, pardonne. Parce que quand Dieu va commencer par agir, par le frapper par rapport à ça, laissez tomber. Affaire à suivre. Un faible qui pardonne fort, est-ce la puissance du pardon? Bon, ça rejoint quelqu'un qui demande, j'ai vu quelque part, quel lien entre la puissance et le pardon? Le pardon a une puissance. Quelle est cette puissance-là? C'est la puissance de la libération. Quand vous pardonnez, vous êtes libéré. Quand vous ne pardonnez pas, toutes les portes sont fermées. Vous avez comme impression que vous êtes une personne à part dans un monde. Vous ne faites plus corps avec le monde dans lequel vous êtes, ou l'endroit où vous êtes, soit pour travailler ou dans votre lien, votre relation. Mais vous êtes comme si vous avez l'impression que vous êtes une personne à part. Ça dit que tout le monde vous en veut. Vous dites, c'est moi seul, personne ne m'aime. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est que vous-même, vous avez créé cette ambiance-là autour de vous parce que vous voyez le mal partout. Vous ne voulez pardonner personne. Puisque la Bible dit que la mesure que tu utilises pour servir aux autres, c'est cette même mesure-là qu'on va prendre pour te servir. Donc si tu ne pardonnes pas, ce qui est sur toi-même, au-delà même de Dieu, les hommes humains qui sont dans ton entourage, tu fais des choses sur les offenses. Ils ne te pardonneront pas aussi. Mais c'est ce que la Bible a dit. Celui qui arrose sera arrosé. Si tu arroses avec l'esprit du non-pardon, tu seras arrosé avec l'esprit du non-pardon. Et c'est pourquoi j'explique le Notre Père en disant, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. On dit, si quelqu'un ne pardonne pas, Dieu ne lui pardonnera pas non plus. C'est clair. C'est la règle de Dieu. Et Dieu est lié à sa parole. Donc vous devez déjà apprendre à pardonner, à laisser tomber ça là. Et cette puissance, le lien entre la puissance et le pardon, c'est que celui qui pardonne est au-dessus de celui qui n'a pas la force de pardonner. Parce que celui qui a la capacité de pardonner, Dieu le récompense. Parce que quand Dieu dit, ne faites pas ci, sinon il y aura ça. Ne faites pas ci, sinon il y aura ça. La loi de Dieu, ne jalouse pas ton prochain. Ne cherche pas à convoiter son bien. Ne cherche pas à faire telle chose. Si tu arrives à ne pas faire ça, Dieu te donne les bénédictions liées à ça. Dieu est la première personne qui gère nos intérêts. Quand on dit ça, les gens écarquillent les yeux et disent, mais comment Dieu peut-il gérer nos intérêts? Il a dit oui, si. au conditionnel. Si tu fais ci, je te donnerai ça. Si tu fais ça, je te donnerai ceci. Dieu ne doit jamais rien à personne. C'est pourquoi il a dit, si je dois quelque chose à quelqu'un que j'ai oublié de le faire, que cette personne me rappelle. Et moi, le grand Dieu, je le ferai. Dieu ne doit jamais rien à personne. Je vais vous raconter une petite histoire en bref, comme exemple pour bien comprendre, pour caricaturer. Lorsque j'étais à la fonction publique, je vous avoue que dans cette administration, entre-temps, c'était la pire des administrations. C'était la pire des administrations. Je n'ai pas d'amis. Ce n'est pas aujourd'hui où vous allez là-bas là, et puis ils vous disent, ah, on la connaît, elle était restée avec nous. C'est Dieu qui est passé par là. Donc il faut laisser l'homme, on connaît ça ici. Oui. Et moi-même, j'étais tout le temps sur le qui-vive. Parce que je sais que je n'ai personne pour défendre mon cas dans cette maison-là. J'ai toujours été comme ça. Mais après 9 ans de service, j'ai été affectée. Et c'était une frustration pas possible. J'ai été dégradée, affectée, avec une note à l'appui. Le jour où je suis allée prendre service, d'abord là où on m'a envoyé, là, nous-mêmes on appelle ça, c'est pas moi qui ai surnommé ça, la prison postale. Parce que quand on t'a fait là, en face du marché Saint-Michel, là, on t'a envoyé en prison. Les postiers savent. Quand on t'envoie à Jéricho là, tu es envoyé à la prison postale. Si tu quittes Jéricho, puis tu vas au centre de tri, il faut savoir que pour toi là c'est terminé, tu es au violon. Ça, c'est grave. Et j'ai été affectée là-bas. Le jour où je suis allée prendre service, imaginez, j'ai fait un entretien avec mon responsable de 9h à 12h30. Vous imaginez? Et ce jour-là, ça dit que j'étais furieuse parce que le document qui a suivi mon affectation, c'était que c'était le bœuf, cette dame-là, c'est le bœuf à abattre, point barre. Et la dame me parle. J'étais là, je la regardais droit dans les yeux. Elle me dit, oui, avec moi, ça ne se passe pas comme ça. J'écris. Je suis en mesure de vous sortir de cette maison. J'ai entendu parler de vous. C'est-à-dire, elle n'a rien dit de bon sur ma vie. Je ne la connaissais ni d'Adam, ni d'Ève en tant que collègue. Mais je suis venue prendre service. Et quand elle a fini à 12h30, je lui ai dit, je pense que c'est une dame de fer qui est venue rencontrer une autre de fer. Et nous allons faire bon chemin ensemble. C'était la phrase fétiche qui devrait me tuer. Il arrivait des moments où je dois aller au bureau en chaussures, comme vous appelez les dimanches, là. Parce que je n'osais même pas porter des chaussures fermées. Je n'osais pas bien m'habiller. Elle dit que mes pas la dérangent. Comme si on était dans un atelier de couture. Et c'était la fonction publique. Tenez-vous tranquille. J'ai subi les pires humiliations. J'ai trié des courriers comme si j'étais... agent de course de la maison. Qu'est-ce qu'on ne m'a pas fait faire dans cette maison? J'ai tout fait. Mais je vous assure qu'il était arrivé un moment où j'ai dit, Seigneur, je ne lui pardonnerai jamais. Cette dame-là, je ne lui pardonnerai jamais. Mais ce qui est sûr, le monde ne s'arrête pas dans les quatre coins de la poste du Bénin. On va en sortir. Et ce qui est sûr, elle a des enfants, j'ai des enfants. On va se coincer quelque part. L'histoire n'est pas terminée. Et comme j'avais l'habitude de dire, « Adigarou mi lo fion, adigarou e lo koro. » Ça, c'est clair. Et j'étais vraiment furieuse parce que il y avait des tas de frustrations qui étaient en moi, que je vivais en direct, en live. C'est pas ce que je dis là, je ne peux pas entrer dans les détails. Mais vous savez qu'à un moment donné, j'ai commencé par prier. Je dis, « Seigneur, je suis fatiguée. Qu'est-ce que je dois faire? » Mais Dieu me dit, ma fille, je te ferai si, ça. Mais avant, tu dois lui pardonner. Et lui dit que tu lui pardonnes. Ah, Dieu, toi aussi. Tu fais faire des choses aux gens, hein? C'est en ce moment que la grâce du Seigneur seule vous suffit. Sa grâce seule vous suffit. Et j'ai commencé un jeûne. J'ai fait un jeûne sec d'Esther d'une semaine. Je suis sortie. Moi-même, j'étais comme ça. Bouin. Affectation n'a qu'à arriver. C'est en ce moment-là que l'affectation des autres arrivait. Quelqu'un quitte là, il devient recevoir encore ailleurs. Il monte en puissance. Tous ceux qui étaient mes amis sont affectés. Mais moi, je suis encore là. Je dis, mais Seigneur, c'est injuste ou quoi? Regarde, tu n'as pas dit de lui pardonner. Mais dans mon cas, je l'ai déjà pardonné, non? C'est fini. Et puis, J'ai fait mon jeûne. Je t'ai déjà demandé toi aussi pardon, on a fait la paix. C'est fini, donc je dois partir. Je dis non. On ne me blague pas. Là, tu as fait ça juste pour sortir de la situation. Et quand tu vas sortir, tu ne vas jamais la pardonner. Il faut aller lui dire pardon. Je dis ça, c'est le pardon. Et ça, c'est difficile, je ne ferai pas. Point bas. Donc, si je vais mourir là, je n'ai qu'à mourir là. Moi, je ne demande pas pardon. Parce que entre temps, sans vraiment me laisser, c'est-à-dire, entre les mains de Dieu, pour avoir la capacité de pardonner, je ne pouvais aller nulle part avec. Et cette maladie-là était là en ce moment. Aujourd'hui, je n'en souffre plus. Du tout, même pas. Sans séquelles. Sans séquelles. C'est miraculeux. En ce moment-là, j'ai fait un tour voir un autre collègue. Et le collègue me dit, tout le monde connaît la dame. Il me dit, cette dame-là, c'est là-bas où on t'a envoyé, ma chérie. Moi-même là, je souffre pour toi ici. Mais je dis, elle là, je ne pardonne pas. J'ai même des listes de gens. Ça dit, et leurs enfants que j'ai écrits pour dire, ces gens-là, on va se croiser. Ça, on va se croiser. Le monde ne s'arrête pas là, on va se croiser. C'est pour vous dire, ce que vous faites vous-même et qui est mauvais. Ce n'est pas pour m'enorgueillir, mais je vous le dis pour dire, on se retrouve dans cette situation-là, on se demande qu'est-ce qu'il faut faire. Ce n'est pas facile, mais Dieu ne te demandera pas ce qui est facile. Ce qui est à la limite de ton pouvoir, Dieu ne te demandera pas. Parce qu'on dit que la capacité de Dieu commence là où la note s'arrête. Tant que tu es capable de faire quelque chose, Dieu ne va pas s'en mêler. Il te laisse faire. Mais c'est quand tu n'as plus la capacité de faire quelque chose, là maintenant le grand Dieu se lève comme père pour dire, écoute fils, je peux te décrocher ça là-haut. Et je te le donne. Et ce monsieur-là m'a parlé d'un livre qui est ici à la bibliothèque. Faites un tour et puis essayez de lire. Il m'a dit, mais il m'a parlé, dit, mais tu dois pardonner. Parce que est-ce que tu ne vois pas que tu es gris, tout a changé en toi. Tu as perdu ta beauté, tu as perdu ta grâce, tu as perdu ta fraîcheur, tout en toi. Et c'était sincère. Si vous me voyez en ce moment, j'étais plus noire que je ne le suis aujourd'hui. Je n'ai pas passé de produit, mais c'est la paix du cœur. J'étais plus sombre. Obscurité totale. Parce que là, oui, parce que j'étais gris. Pas contre une seule personne, mais contre une masse de personnes. Je dis, mais ça, je vais le leur faire. Parce que de frustration en frustration, je suis passée. Et le monsieur me dit, je vais te donner, tu ne peux pas faire ça. J'ai dit, je ne peux pas, pardon. Il faut laisser, je ne peux pas. Et il dit, je vais te donner un livre que tu vas lire. J'ai dit, d'accord. Et il a dit, le pardon, une puissance qui libère. J'ai dit, ah bon? En tout cas, si tu amènes là, je vais lire. Mais si tu n'amènes pas, c'est tant pis. Moi, je ne vais pas acheter. Et c'est lui qui allait chercher le livre. Lui-même, il l'a acheté. Et il m'en a offert. À mon anniversaire. J'ai pris le livre, j'ai dit, regardez-moi ça là. Pardon, une puissance qui libère. Ces gens-là, ils aiment trop parler des choses spirituelles. Des conneries comme ça. Bon. Je vais me balader, je vais lire un peu, je vais voir de quoi il s'agit. Quand j'ai pris ce livre, que je l'ai lu objectivement, je n'ai pas pris ça comme un roman. Le Seigneur a commencé à chaque paragraphe, à chaque chapitre, chaque paragraphe, chaque point, chaque virgule à me parler. Et j'ai commencé par dire, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? J'ai envie de lui pardonner. Et cette nuit-là même, j'ai décroché mon portable. J'ai écrit à ma responsable. Je lui ai dit, pour tout ce que tu as fait, pour tous les dégâts que tu as causés dans ma vie, je te pardonne. Et c'est de la même façon que moi-même, je te demande pardon pour tout ce que je t'ai fait. Elle n'a pas répondu. Parce que cette elle-même va se dire, mais elle s'est trompée de numéro ou bien quoi. Le plus dur reste à venir. Je suis allée au bureau, Dieu me dit, ça ne s'arrête pas. Attends, parce qu'elle n'était pas devant toi. Donc tu as fermé l'œil. Tu as fait semblant, tu as envoyé. C'était dur. Non! Rentre chez elle. Fais-la asseoir par lui. Chai. Papa, bon Dieu, comme le dit Papa Karambéry là. Et lui aussi là. Ça dit, tu es là, il n'est pas méchant, hein. Mais il n'est pas bonbon non plus. Pas du tout. Tu n'es pas bonbon, hein? Si vous pensez que Dieu est bonbon, il n'est pas bonbon du tout. Et il fallait que je le fasse. Mais je dis, je résistais. Je dis, je ne le ferai pas, Seigneur. Ça, surtout pas. Ne me demande pas ça. Cette dame-là, celle-là, avec tout ce qu'elle m'a fait. C'est après ça, maintenant, que je suis allée chez elle. Dieu m'a donné la force pour demander pardon. Mais c'était dur. Je ne pouvais pas la regarder droit dans les yeux. Parce que c'était ce que Dieu me demandait là, c'était dur. Dieu l'a même laissé peu dire. Je suis allé lui demander pardon. Vous savez, je suis allé lui demander pardon, mais j'ai dit, je ne détruis pas mes preuves là. Je ne détruis pas. C'est dans mon sac. J'ai me rappelé au moins de ça. Dieu ne me dit pas de détruire, parce que là. Et c'est un jour comme ça, je suis allé à l'église, on prêchait sur le pardon. Mais c'est comme si c'était à moi que le prédicateur parlait. Et tu gardes des preuves sur toi. Comme quoi, demain, tu vas montrer à tout le monde qu'on t'a offensé. Est-ce le pardon? Je fondais en larmes comme ça. Parce que je n'écoutais pas le prédicateur, mais j'écoutais la voix de Dieu qui me parlait. J'ai dit, donc tu veux que je détruise ça? Je suis rentré, je regarde, je plie. C'était des piles de dossiers. Je regarde, je lis, je regarde. Je dis, oui, tu vas me les détruire. Je les détruis. Mais laissez-moi vous dire, quand j'ai fini tout ce processus, une semaine n'est pas encore arrivée. Et puis un autre chef, avec toute cette dame-là en même temps, dit, maintenant, aidez-moi à la faire sortir de cette maison. Par quelqu'un que l'Éternel a fait aujourd'hui, mon époux. Le pardon n'a pas une puissance qui libère. Peut-être que si je ne les avais pas pardonnés, si je n'avais pas détruit les preuves, si je n'avais pas souffert ça pour Dieu, est-ce que Dieu pourra-t-il m'élever aujourd'hui, là où je suis? Cette personne-là est devenue aujourd'hui mon époux. Mais quand je rentre dans cette maison-là aujourd'hui, tout le monde me respecte. Jusqu'à cette personne-là, elle est arrivée, et puis on me fait asseoir. Est-ce que vous allez encore pardonner ou bien vous n'allez pas pardonner? C'est la question que je vais vous poser. Vous allez pardonner ou bien vous n'allez pas pardonner? Vous êtes le maître de votre vie. Donnez-moi deux chaises. Le Seigneur m'a donné une révélation en direct ici le dimanche. Que je vais vous faire tout à l'heure. Envoyez-moi deux chaises. L'une dans l'autre. Envoyez encore deux. On va faire avec quatre chaises seulement. C'était une révélation en direct. Quelque chose que je ne connaissais pas. Mais le Seigneur me l'a donné. Quand vous pardonnez, c'est pour vous-même. Parce que la gloire qui est derrière ça, quand vous pensez que vous vous humiliez pour les autres, regardez, je le tiens. Revenez, donnez-moi une autre. Mettez dedans. Je reste comme ça pendant 30 minutes. Qu'est-ce qui va se passer? Pardon? Deux chaises, hein? Ajoutez-moi encore. Je reste là pendant une heure de temps, puisque j'en souffre déjà même. Qu'est-ce qui va se passer? Hein? Vous voulez changer? Demain. Ajoutez-moi encore. Je reste comme ça pendant 5 jours. Qu'est-ce qui va se passer? Et si je garde ça comme ça pendant 5 ans? Avec la seule main. Qu'est-ce qui va se passer? Et si je fais ça? Qu'est-ce qui va se passer? Et vous prenez l'offense des gens. C'est simple comme ça. Broum. Quelques jours après, quelques heures, vous prenez encore d'offense, vous ajoutez. Ainsi de suite. Et vous gardez ça pendant 5 ans, pendant 10 ans. Et vous dites que quelqu'un vous a énervé, vous ne pouvez pas pardonner. Quand vous vous déchargez, est-ce que vous n'êtes pas soulagé? Et même libéré. Mais c'est ça, quand vous portez le poids de la haine en vous, ce fardeau-là dans votre cœur, vous vous rendez malade. Vous souffrez pour rien. Vos bras auront tendance à s'affaisser. À s'affaisser. Oui, vous pouvez laisser. Oui. Il est parti. Vous savez pourquoi il partait? C'est de la même façon celui qui vous offense. Il vous jette dessus. Bon, lui, il s'en va. Il s'en fout. Vous voyez un peu? Il vous jette ça dessus. Lui, il s'en fout. Il s'en va. Il n'est même pas là pour voir ce que vous souffrez. Comment vous gardez ça? C'est lourd, c'est léger. Il ne regarde pas. Il s'en va. Oui. Exactement. Et on ne peut rien faire avec une seule main. Donc, ça veut dire que quand vous avez tout ce fardeau là sur votre vie, vous ne pouvez rien faire d'autre. Vous passez tout votre temps à dire, c'est les hommes, hein. C'est les hommes qui ont fait ça. C'est ma tante. C'est mon oncle. Mes collègues ne m'aiment pas. Oui. Mais c'est vous-même. Oui. Pour Dieu, là aussi, ça vient à gauche. Donc, ça veut dire que vous avez les mains entièrement chargé les deux mains. Et vous n'êtes plus à l'aise. C'est ça le fardeau que vous gardez. Allez-vous encore garder ce fardeau-là ou bien vous allez ouvrir la prison de vos cœurs et libérer ceux qui y sont? Libérez-les pour dormir. Parce que quand vous avez tout ce fardeau-là en vous, vous pensez à ça. Il m'a fait ci, il m'a fait ça, telle a fait ci. Hein, je verrai. En tout cas, et puis Dieu aussi, comme elle dit, ajoute pour lui. Parce qu'il a dit, si vous ne pardonnez pas, lui aussi ne vous pardonne pas. C'est clair, puis c'est net. Oui.
Il commet peut-être des bêtises là. Et bon, lui n'est pas conscient de ça.
Oui.
On peut le pardonner, ça. Il n'est pas conscient. Mais quelqu'un qui est conscient de ce mal-là qu'il perd à son prochain, à lui, je trouve quand même ça difficile de pouvoir voir cette personne-là comme ça, de la regarder chaque fois.
Si vous restez dans la chair, dans la troisième dimension, vous ne pouvez pas le faire.
Je parle de quelqu'un comme Ben Laden, comme ça. Voilà, non, parlons sérieusement. Ça fait peut-être rire, mais moi je vois la chose dans une certaine philosophie, à travers quand même le sujet en question. Ben Laden a commis des choses impensables. C'était pour moi un criminel. Lui n'était pas même quelqu'un d'inconscient. Il savait très bien ce qu'il faisait et il prenait même une certaine jouissance même à le faire. Mais on ne peut pas voir des gens comme ça vivre et se balader comme ça sur cette terre-là, alors que Dieu demande de vivre avec son prochain ou ses prochains, sinon même et ses prochains, dans un certain amour sincère. Et voir des imbéciles comme ça, excusez-moi, des gens comme ça, à faire de ces choses-là et les laisser ainsi. Voilà pourquoi, pour moi, il y a ce qu'on appelle quand même quelque part justice, prison, péché même en question. Voilà, en tout cas, je ne sais pas.
Vous si avez entièrement raison. Vous avez entièrement raison de dire que quand quelqu'un fait ça, humainement là, on ne peut pas pardonner. Mais vous n'êtes pas le juge de la terre. Ce n'est pas vous, Dieu. Et vous voyez, regardez par exemple, Ben Laden qui tue tout un peuple. Hein? Et quelqu'un qui s'élève, qui va semer une seule parole dans un ménage peut-être de 6 personnes. Ça les amène au divorce, à la séparation, au casse, au divorce. Ces enfants demain peuvent devenir des drogués parce qu'ils n'ont pas reçu d'éducation. Il y en aura qui deviendront des prostituées jusqu'à vie ou jusqu'à leur mort. Et la grande famille, ils vont s'entretuer. On va dire les tels et les tels là ne s'entendent pas. Vous pensez que ça c'est moins criminel que ce que Ben Laden fait? Regardez Jésus-Christ à la croix du calvaire. Il a dit oui, c'est vrai. Personne ne me prend ma vie. Je la donne moi-même. Et il a donné. Et quand il a donné là, c'est pour vous. C'est pour nous tous. Mais vous avez payé le prix. Pour qu'il fasse ça pour vous.
Non.
Ah ah. Voilà. Lui, il s'est sacrifié pour vous. Il a été humilié. On a fait tout ce qu'on peut faire, c'est-à-dire tout ce qu'il y a de pire là. On lui a fait, on l'a flagellé. Regardez simplement cette image-là. Pour des gens méchants que nous sommes. Et ceux qui le faisaient, ils riaient. Vous pensez qu'ils étaient en train de pleurer? Ils riaient. Parce que pour eux, ils ont du plaisir à faire ça. Mais quand ils voulaient rendre l'âme, qu'est-ce qu'il a dit? Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce qu'il y a encore une douleur au-dessus de cette douleur-là? Est-ce qu'il y a un sacrifice qui peut dépasser ce sacrifice-là? Mais lui, il a pardonné. Ils ne savent pas. Bon, vous pensez que c'est lui qui le fait, Ben Laden, il l'a choisi? Et c'est pourquoi je vous dis, dans la troisième dimension, c'est atroce, on ne peut pas supporter. Mais dans la quatrième dimension, si vous savez que le monde est régi par l'Esprit de Dieu, et l'esprit du diable. Et les deux, c'est comme un champ de bataille. Le diable est là. Parce que le sorcier, celui qui est méchant, Il n'est pas né méchant, hein? Non. C'est l'esprit de la méchanceté qui vient sur lui. Et c'est parce que vous, peut-être, vous avez la crainte de Dieu. Parce que vous avez atteint un certain niveau spirituel. Que vous vous dites, par crainte de Dieu, ça là, c'est atroce, c'est méchant. Pour lui, c'est pas méchant. Qu'est-ce qui est méchant là pour lui? C'est comme je disais à quelqu'un aujourd'hui qui dit, il y a une différence de culture entre mon mari et moi. Et puis elle s'en plaignait. Je dis, hé, arrêtez-vous d'abord. Si lui, il est de là-bas, de cette religion-là, ce que vous ne savez pas, c'est que c'est dans cette religion, quand un homme dote une femme, c'est fini, il a déjà payé la femme, il a tout fait. Il n'a plus rien à donner comme popote, plus rien du tout. C'est la femme qui le supporte jusqu'à sa mort. Point barre. C'est comme ça qu'on fait chez lui. Mais chez toi, là-bas, c'est pas ça. Mais tu penses que ça, là, cette attitude que l'homme a, il va trouver ça bon. Il va trouver ça normal, il ne va pas trouver anormal. Parce que c'est la norme chez lui. Mais on ne peut pas non plus dire que cet homme est méchant. Non. Parce que c'est ce qu'on lui a enseigné. C'est sur ça qu'il est assis. Il a été élevé, éduqué jusqu'à ce qu'il a grandi. Il a eu barbe. Il n'était pas comme ça. Il y a des moments donnés, il y a des esprits qui viennent sur vous. Des esprits démoniaques, de la méchanceté, de la fornication, toutes sortes d'esprits. C'est pourquoi notre corps est le temple de Dieu. Quand je dis notre corps, ce n'est pas seulement la fornication, mais pour toutes choses, nos pensées, tout ce que nous faisons là, nous devons savoir que notre corps est le temple de Dieu. Et dans le temple de Dieu, nous allons choisir l'esprit de Dieu pour habiter en nous, qui est le Saint-Esprit qui nous utilise. Si vous voulez, faites-vous justice. Cherchez à tuer Ben Laden. Il va vous écraser.
Par exemple, je ne plais pas la mort de Ben Laden.
Allez chercher tout ce que vous voulez pour le combattre. Il va vous réduire en purée. Parce que Dieu ne vous a pas donné l'autorité, la force, le pouvoir d'aller juger les hommes sur la terre. Non. Là, c'est tout autre chose. Vous pouvez l'arrêter. Vous pouvez arrêter quelqu'un. Et puis vous lui parlez un peu comme il dit. Après, faire une récession, effectivement, sociale. Mais ça, là. La Bible dit que Dieu a créé toutes choses, jusqu'au méchant, pour le jour du jugement. Donc, ce n'est pas à vous de faire le jugement avant qu'il ne revienne Christ. Donc, sachez que le jour du jugement, ces gens seront jugés. Quand Dieu dit, je ferai tout, même le méchant, tout a été créé, même le méchant pour le jour du jugement. Vous avez entendu parler de l'enlèvement? Vous avez lu Apocalypse, la révélation de Jean. Christ reviendra, ça c'est clair. Ça là c'est clair. Ça peut être en notre temps, tout comme ça peut ne pas l'être. Mais ça là, c'est limpide comme l'eau de roche. Il y a des prédispositions pour ça. Mais il reviendra juger. Son royaume là, la Nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. C'est pas au ciel. La Nouvelle Jérusalem là, c'est pas. Donc, avant que la nouvelle Jérusalem ne soit, pour qu'il vienne régner pour toujours, il y a le jugement des vivants et des morts à l'époque. Quand vous lisez votre Je crois en Dieu, vous parlez là, vous chantez seulement, vous ne savez pas de quoi il s'agit. On dit, il reviendra juger les vivants et les morts. C'est écrit dans la Bible. Même si lui, Ben Laden peut-être là, s'il n'a pas reçu Christ, et puis il meurt là, on va le juger. On dit les vivants et les morts. C'est clair. Donc, si ce n'est pas ça, le micro. Même si c'est au jour du jugement, envoyez derrière d'abord. Au jour du jugement, Dieu va le juger. Ce n'est pas à vous de rester là pour chercher à juger quelqu'un, pour voir que telle personne a fait atroce et criminel. Parce que chaque jour, vous-même, vous offensez Dieu. Si Dieu devait simplement regarder vos péchés, si Dieu devait simplement regarder ce que vous faites, il y a longtemps que vous ne serez plus assis là. Laissez tomber. Oui.
Alors, je voudrais rappeler à notre ami qu'il ne faut pas confondre le plan personnel et le plan macroscopique, le plan national. Nous parlons ici du pardon pour l'individu qui doit pardonner. Cela ne doit pas se confondre avec la nation, avec l'État, auquel, comme le dit la Bible, Dieu a donné l'autorité d'encourager le bien, de décourager le mal, de juger. Quelqu'un vous viole, par exemple, vous pouvez porter plainte et que la justice le juge. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. La question, c'est que, qu'on le juge ou qu'on ne le juge pas, qu'il soit enfermé ou même tué ou pas, Même si on le condamne à mort, généralement demandez à ceux qui ont été victimes d'atrocités, même quand on le condamne à mort, ça ne change rien à votre douleur. Regardez les pays en guerre comme le Rwanda, comme la Côte d'Ivoire. On a arrêté Gbagbo depuis. Ils se demandent s'il ne faut pas le libérer. Ça a changé quoi? Ça a réveillé quelle mort? Bien au contraire, si on ne sait pas faire, ça va créer d'autres morts. Ils ont tué Kadhafi, ça empêchait la Libye d'exploser. Ils ont tué Saddam Hussein. Est-ce que l'Irak se porte bien? C'est ça la question. Là où la justice humaine s'est appliquée, ça a réglé des problèmes ou ça a compliqué le problème?
Ça a toujours compliqué.
Donc, admettons même que la justice humaine veuille s'appliquer, elle s'applique parfois. L'histoire prouve que ça ne change rien pour l'individu. Jusqu'aujourd'hui, on parle au Rwanda de réconciliation. Jusqu'aujourd'hui, on a beau enfermer Gbagbo, enfermer Simone, enfermer tous les gars. On dit encore, comment on va faire pour avoir la paix? Cette paix ne vient que de vérité et réconciliation. Quelle que soit la tortue, même qu'on impliquerait à quelqu'un qui t'a fait du mal, même si l'État le juge et le punit, dans ton cœur, si toi tu ne lui pardonnes pas, toi tu vas être détruit. Et il n'y a pas de polémique sur ça, on avance.
Donc on a déjà parlé, on a déjà défini le pardon, hein? N'est-ce pas? Qui est censé demander pardon? Alors humainement, vous allez dire que celui qui est censé demander pardon, c'est l'offenseur. Ça c'est humain, n'est-ce pas? On se dit, ah, c'est lui qui m'a offensé, il doit venir me demander pardon. Ça c'est les règles humaines. Elle me dit qu'un des disciples de Jésus a demandé, mais qui est le plus grand, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, le plus grand, c'est celui qui s'abaisse, qui lave les pieds des autres, qui sait les autres en fait, c'est le plus grand. Ça veut dire, celui qui est humble de cœur, celui qui sait qu'il n'est rien, si Dieu ne lui donne la capacité, c'est cette personne-là qui est la personne la plus grande parmi vous. N'est-ce pas? C'est ce que la parole de Dieu a dit. Alors, si on veut suivre cette logique-là, l'offensé va demander pardon. Il est le plus grand. Si l'offenseur ne sait pas qu'il doit demander pardon, l'offensé demande pardon. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure l'histoire-là, je demande pardon, je suis plus grand que lui. Je suis entièrement déchargé. Parce que la suite de l'histoire, c'est que je rencontre son fils dans la rue qui me dit, oh, je n'ai plus de boulot. Faites quelque chose pour moi pour que je puisse avoir un boulot. Si c'est vous, vous n'allez pas le faire. Mais le Seigneur va vous donner la capacité de le faire. Oui?
Je n'ai pas offensé la personne. Et que c'est lui qui m'a offensé. Pour moi, partir lui dire, je demande pardon, c'est comme si je suis en train de mentir. Est-ce que ce ne serait pas mieux de lui dire, tu m'as offensé, mais je te pardonne?
Ça dit que l'Esprit de Dieu convainc chaque personne selon chaque situation comme il veut. Pourquoi je dis ça? Quand quelqu'un vous offense et que vous, ce n'est pas pour lui, par crainte de Dieu, c'est-à-dire on dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Vous avez cette sagesse-là qui n'est pas humaine. Vous allez faire des choses que forcément, on dit que la sagesse de Dieu est folie pour le monde. Le monde va trouver qu'il est bête ou bien quoi. Il l'a offensé. Et c'est lui qui se lève pour aller demander pardon. Le monde va croire ça. Mais toi, tu es sage et tu es plus grand. Maintenant, si tu ne veux pas, c'est-à-dire, l'Esprit de Dieu ne te convainc pas à aller vers. Parce que ce n'est pas vers tout le monde qu'on va se déplacer pour dire excuse-moi, excuse-moi, excuse-moi. Si l'Esprit de Dieu te convainc pour dire telle chose par rapport à telle personne, lève-toi, va lui demander pardon. Bien que ce soit toi l'offensé, tu peux aller le faire. Mais si l'Esprit de Dieu ne te convainc pas, et que tu te dis, bon, comme on a dit ça, moi-même j'irai, mais bon, c'est pas grave, mais il doit obéir, il rame. Je vais juste dire ça, bon. Pour être à l'aise, c'est là où tu te mens toi-même. Parce que tu n'es pas convaincu. Et la Bible dit que tout ce que nous faisons, sa conviction n'est que péché. Mais si tu es convaincu que tu dois aller présenter tes excuses, tu dois dominer la situation. Parce qu'en tant qu'homme, Dieu t'a donné la capacité de dominer tout. Tu domines cette situation, tes sentiments pour aller dire pardon à l'autre. Il n'y a pas d'offense là. Il n'y a pas de bon, je me mens à moi-même. Tout dépend de comment est-ce que vous allez vers l'autre. Mais moi, je vais vous dire que quand on pardonne, on oublie. C'est vrai que vous allez me dire, c'est pas facile. Dans ma tête là, comment je vais oublier? Oublier c'est quoi? Vous ne tenez plus compte de ça. Vous ne regardez plus la personne par rapport à l'offense. Vous ne dites plus, bon, vous savez, il m'a fait, ça fait mal, hein? Mais j'ai pardonné, hein? Mais ça dit, vous n'allez pas vous apitoyer encore sur l'acte posé. Si c'est de façon pédagogique, vous dites, voilà, là c'est bon. Vous pouvez raconter pour que cela puisse édifier quelqu'un. Mais si c'est pour dire, j'ai pardonné, hein? Vraiment pour détenir le témoin, ça ne sert à rien. Celui qui pardonne va oublier, il ne tiendra plus compte de l'offense. Parce que quand vous ruminez chaque fois l'offense, vous dites que vous avez pardonné, mais vous ruminez, ça vous amène encore à poser des actes. C'est-à-dire, pour démontrer à l'autre que je t'ai pardonné, hein, mais tu dois me payer ça. Je t'ai pardonné, mais vraiment, c'est pas fini, hein, c'est là quand même. Et puis quand la personne, souvent ça se passe dans les couples. On dit, bon, j'ai fait telle chose, ou bien votre conjoint a fait telle, ou bien votre conjoint a fait telle chose. On dit, bon, vraiment, je te pardonne, c'est dur, hein. Et puis on décide de pardonner, de laisser tomber. Et effectivement, on se comprend. Mais quand l'autre commet peut-être un autre acte, qui a tendance à ressembler un peu à ça, que ce soit conscient ou inconscient, en même temps, on dit, voilà. On dit, non, là, tu avais fait avant, je t'ai pardonné. Tu penses que maintenant, je t'ai pardonné encore? La personne peut ne pas choisir de refaire en même temps, mais c'est arrivé. Donc on dit, on guette l'autre. On dit, je vois ici. Si tu tombes encore dedans ici. Donc on est en train de guetter l'autre sur la chose pour dire, en tout cas, c'est dans mon cœur. Hein, je suis en train. Et puis, comme on dit, ce que vous croyez là, vous l'aurez. Vous êtes en train d'appeler dans la vie de la personne les mêmes erreurs. Par la pensée. Oui. Par la pensée. Parce que c'est pourquoi Dieu dit de ne pas convoiter le bien de quelqu'un. Parce que quand tu convoites quelque chose là, dans ta tête là, tu as déjà pensé à tout. C'est-à-dire, tes pensées sont allées loin rapidement avec la chose que tu as convoitée. Et la Bible nous dit que la foi, c'est quoi? La ferme assurance de ce qu'on espère et la démonstration. C'est quand tu démontres dans ta tête que là est né. Et quand on appelle par la foi, ça arrive, c'est clair. Donc on est là en train de guetter, oui, en train de guetter pour voir, bon, est-ce que. Oh, si vous pardonnez, vous oubliez. Vous êtes libre. C'est comme ce que je vous ai montré. Sinon, vous amassez encore le poids sur le poids. Au finish. Oui?
Je voulais savoir, dans le cas où l'offense que la personne m'a faite,
oui?
Viole une loi de la République, là, est-ce que, d'après l'image du chrétien, en lui pardonnant, est-ce que je devrais oublier ça au lieu de me plaindre pour que cette personne soit punie par la vie?
On va demander à monsieur de répondre.
Tout dépend de ton cœur et de ce en quoi tu crois. Nous ne parlons pas ici de faire semblant. Nous parlons de ce qu'on croit. Vous devez savoir que Dieu voit de manière transparente dans votre cœur comme dans ce que vous dites. Si tu crois vraiment en Dieu, si moi je fais mal à quelqu'un, qu'il peut me poursuivre et qu'il décide de pas me poursuivre, de laisser à Dieu, je vais lui demander, il vaut mieux me signaler aux hommes. Si tu ne veux pas me pardonner, tu veux me mettre au tribunal des dieux là, pardon, encore les hommes je préfère. Parce que Dieu dans sa justice, la Bible dit que faire du bien à ton ennemi, c'est amasser des charbons ardents sur sa tête. Donc si tu connais Dieu, que quelqu'un te fait quelque chose qui doit être impardonnable, que tu lui pardonnes. En fait, quand on connaît bien Dieu, tu es plus méchant comme ça que quand tu essaies de lui régler tes comptes. Quand on connaît bien Dieu. Cela veut dire que moi, ça m'est arrivé. Nous sommes dans un pays où, hélas, tu peux être obligé de faire certaines batailles judiciaires, non pas parce que tu veux te venger, mais parce que tu es obligé. Quel exemple veux-tu donner? Supposons qu'on t'a volé ta moto, alors que tu es assuré. Tu ne veux pas qu'on enferme la personne. Et si tu ne déclares pas la paix, tu ne peux pas faire valoir ton assurance. Et si demain quelqu'un utilise ta moto pour faire un braquage et qu'on vient t'attraper, tu ne peux pas dire j'ai perdu ma moto. Cela peut t'obliger à porter plainte ou en tout cas à déclarer la paix de ta moto. Mais en disant ne vous fatiguez pas, je ne cherche pas le coupable, laissez faire à Dieu. S'il ramène la moto, c'est bon, sinon on ne va pas perdre mon temps. Donc si tu fais confiance à la justice de Dieu, tu peux bel et bien confier ça à Dieu et laisser les hommes tranquilles. Mais il peut arriver que pour différentes raisons, tu pardonnes dans ton cœur, mais que tu fasses une action judiciaire. C'est dans le cœur qu'il s'agit. Et je voudrais pour terminer, souvent quand on demande aux gens de pardonner, j'ai remarqué que beaucoup de gens s'imaginent qu'on leur demande d'aller voir la personne qui les a offensés, de l'embrasser et de faire comme si de rien n'était avec eux. Non. Quand Jésus était sur la croix, les gens le crucifiaient, il a dit sur la croix, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il n'est pas descendu pour les embrasser. D'ailleurs, il ne lui aurait pas permis. Hein. Je crois que ça devait être Isaac. Les gens qui le persécutaient, qui bouchaient ses pieds et qu'on sort. Et là, fini par les battre. Et qu'ils ont demandé à faire la paix. Jacob a donné un festin, pas Jacob, Isaac a donné un festin pour faire la paix avec eux. Mais il n'est pas resté à les embrasser comme si de rien n'était. Dès que la fête s'est terminée sur la paix, il a pris le chemin opposé parce qu'il sait que pour vivre en paix, il vaut mieux les éviter. Nous avons la même chose avec Jacob. Jacob a été convaincu par Dieu de demander pardon, de se réconcilier avec son frère. Il s'est rencontré avec Esau pour faire la paix. Esau dit, viens, on va habiter ensemble. Ça, c'est la logique du pardon hypocrite dans le genre, je t'ai pardonné, le gars essaie de te tuer 3 fois. Dieu veut que tu le pardonnes 7 fois sur 17 fois. Mais pas que tu dormes avec lui dans ton lit alors que tu sais qu'il peut te poigner la nuit. Nulle part dans la Bible, Dieu ne vous demande au nom du pardon de vivre avec l'offenseur qui est dangereux comme si de rien n'était. Ce dont il s'agit, c'est que dans votre cœur, ne lui gardez pas rancune. Dans votre cœur, ne méditez pas son mal. Ne vous réveillez pas tous les jours en guettant son malheur, en guettant l'occasion de le punir, en priant pour que le malheur lui arrive. Souhaitez-lui le bonheur. Souhaitez-lui qu'il rencontre Dieu. Souhaitez que les esprits mauvais qu'il anime disparaissent. Souhaitez qu'il se répande et qu'il devienne un jour quelqu'un qui va dire lui-même, tu sais, je t'ai offensé. Bref, souhaitez-lui le meilleur. C'est ça le plus important. Vous n'avez pas besoin d'aller voir quelqu'un qui vous a martyrisé, l'embrasser pour dire, parce que je suis devenu chrétien, je viens t'embrasser pour te dire qu'il n'y a pas de problème. On ne vous demande pas ça. Et Dieu ne vous demande pas ça. Il vous demande de vider vos cœurs et de désactiver la bombe atomique de rancune dans votre cœur. Pour pardonner quelqu'un, on n'a pas besoin d'aller le voir. On peut le pardonner dans son cœur. Si toi, tu as vidé ton cœur, c'est le plus important. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des cas où on peut être convaincu de dire, bon, cette personne-là, c'est une guerre d'autorité publique, il faut faire comme actuellement, par exemple, un acte public de réconciliation pour d'autres raisons. Ça, c'est autre chose. Mais le pardon dont nous parlons ici, ce n'est pas forcément de s'humilier à aller embrasser l'autre alors qu'il peut encore te poignarder pendant que tu l'embrasses. C'est de désactiver ton cœur. Et ça, on n'a pas besoin de l'autre pour le faire. C'est une décision unilatérale qu'il faut prendre à tout moment. Parce que beaucoup de gens résistent au pardon parce qu'ils pensent que le pardon induit forcément d'aller se réconcilier, de devenir ami avec l'offenseur. La Bible n'a jamais demandé ça. D'accord? Ça répond à votre question?
Pas. Déjà, cette question répond au lien entre le pardon et la loi. Mais moi, je dis Dieu lui-même. Ça dit, attention à ne pas faire certaines erreurs. Il y a des moments où Dieu lui-même veut tester notre propre orgueil. C'est vrai que nous allons vider notre cœur. Mais il y a des moments où l'Esprit de Dieu vous convainc de vous déplacer vous-même là. D'aller, de parler à l'autre. Pas pour rester avec lui, effectivement, pour faire dans le genre... Bon, commençons pas à vivre ensemble, commençons pas à manger ensemble. Non. Mais allez vider sincèrement votre cœur, comme je vous ai raconté un peu. Parce qu'il y a des cas où Dieu vous envoie juste à cause de votre orgueil. Parce qu'il y a des gens qui disent, bon, je pardonne, hein, mais pour moi, là, à jamais, hein, je ne peux pas aller te m'humilier pour demander. Si Jésus dit, le plus grand, c'est celui qui se rabaisse et c'est celui qui sert les autres. Le plus grand, c'est celui qui, parfois, quand il est convaincu par l'Esprit de Dieu, ce n'est pas de façon folklorique, peut se déplacer, aller vers l'autre. Vous dit, je te demande pardon pour tel ou tel. Ça ne vous diminue en rien. Au contraire, ça vous grandit. Mais ce n'est pas pour tout et rien. N'importe quelle chose se dit, bon, viens, hein, bon, pardon. Non. Il y a beaucoup de gens, surtout dans les couples, où on commet les mêmes fautes. C'est comme ce que la question qui a été posée tout à l'heure, on a déjà effacé. Quand on fait là, on dit, bon, je vais demander pardon, elle va me pardonner, elle est trop bête. Elle est trop bête. Quand je vais demander pardon, bon, elle va laisser tomber. Et puis on se dit, bon, l'autre là, il est trop con, hein. On peut encore faire une deuxième fois. Et on revient. C'est là où moi je dis, le pardon n'est pas solennel. Le pardon doit être réel. Ce n'est pas seulement parce que quand j'ai fait quelque chose à bon, on doit dire pardon. Je dis pardon de façon folklorique, solennelle, pour dire, bon, c'est fini, hein. J'ai dit pardon, non. Il reste quoi encore? Non, ce n'est pas ça. Le pardon doit être sincère. On est d'accord? Oui.
Moi, je voulais poser une question.
Oui.
Vous avez dit qu'il faut pardonner. Ce que moi, je veux dire, ça se passe souvent dans des conjoints séparés.
Oui.
Dans des couples, les conjoints séparés. Il arrive parfois, l'un décide de l'offenser. Bon, je donne l'exemple sur ma personne. Arrivé à un moment de la séparation, je me suis dit, sans le pardon, l'évolution des enfants va porter un coup. Donc j'ai décidé de pardonner le papa. Parce que j'ai vu que les enfants profitent de ce malentendu pour commettre des bêtises. Ils savent pas que ce que je suis allée dire là-bas,
oui, ou bien voilà.
Ils sortent de la maison, ils vont chez papa alors qu'ils ne sont pas partis.
Ils profitent de la distance de la séparation.
Parfait. Maintenant, celui-là ne te donne pas l'occasion de lui demander pardon, malgré que c'est lui qui t'a offensé. Il ne te donne pas l'occasion de lui demander pardon. Et souvent, qu'est-ce qu'ils font? Il passe par le biais de ces enfants-là pour toujours. Toi, tu as déjà tout laissé hein, pour le bien-être des enfants, mais eux, ils profitent de ça et à chaque fois.
Un repas aux enfants.
À chaque fois, t'offenser, croyant qu'ils sont en train. Ils font du mal aux enfants, croyant que c'est à toi qu'il est en train de faire du mal en faisant ce qu'il veut, bien en montant les enfants. En leur donnant une autre éducation par rapport à ce que toi, tu es en train de donner. Dans ce cas, quand celui qui t'a offensé, tu le pardonnes, tu cherches à lui demander pardon, et que la personne ne te donne pas l'occasion.
Comment
on fait?
C'est un peu ce qu'il vient de dire tout à l'heure. Libérez votre cœur. Libérez-le entièrement de votre cœur. Et vous parlez à Dieu. Vous priez pour cette personne, que l'Esprit de Dieu le touche.
Oui.
Que Dieu le touche afin qu'il ait la capacité. Mais ne restez pas là figé à toujours regarder. Mais qu'est-ce qu'il a encore fait? Est-ce que je dois aller lui pardonner? Non, vous pardonnez et puis vous oubliez.
Oui, je pardonne, j'oublie. Mais il y a les enfants qui, étant chez moi, vont encore chez lui.
Est-ce que c'est de petits enfants?
Maintenant, les enfants vont, ils les montrent. En quelque sorte,
je comprends déjà ce que vous voulez dire.
Voilà.
Mais sachez que, d'abord, c'est ce que je dis souvent aux parents. Les enfants ne peuvent pas être mélangés, mêlés aux querelles des adultes. C'est mauvais. Mais ce n'est pas parce que lui fait que vous, peut-être, vous allez faire la même chose. Vous dites, qu'est-ce qu'il vous a dit aujourd'hui hein? Parce que les enfants ne sont pas de petits enfants, n'est-ce pas? Ils sont quand même d'un certain âge. La maturité, certainement. Les enfants ne sont pas bêtes. Les enfants observent. Et nos enfants savent bien, même si on ne parle pas, qui a tort, qui a raison. Mais ce n'est pas l'adulte de faire à soi l'enfant pour commencer par dire, bon, peut-être, tu sais, maman a fait ci, tu sais, ton papa là, tu sais. Il ne faut pas en parler avec les enfants. Priez pour vos enfants quand vos enfants vont là-bas. Mais quand ils reviennent, ne leur demandez pas qu'est-ce qu'ils vous a dit encore. Et quand les enfants peut-être se mettent à raconter d'une façon ou d'une autre, quand vous voyez un peu de quoi il s'agit, peut-être vous écoutez, mais vous ne donnez pas votre avis à l'enfant. Mais ne demandez pas à l'enfant qu'est-ce qu'il vous a dit encore aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as vu là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a encore cherché à faire tel nom. C'est que vous creusez encore le trou en profondeur et les enfants deviendront maintenant l'épée qui va vous disperser tous les deux et définitivement. Parce que les enfants iront à gauche, chercheront à plaire à celui qui est à gauche et quand ils reviennent à droite, ils chercheront à plaire à celui qui est à droite. Au final, les enfants développent une éducation pas possible. Ils sont obligés de développer l'hypocrisie, le mensonge et tout ce qu'il faut. Donc ce n'est pas à vous de jouer ce petit jeu-là. Détournez votre regard de ça, confiez ça à Dieu, priez pour tant les enfants et le monsieur même. Quelque chose à ajouter? Oui.
Alors, je remarque que certains ont tendance à confondre pardonner quelqu'un et demander pardon à quelqu'un. C'est comme par exemple dans cette question de couple, où en fait, même si l'un estime à tort ou à raison qu'il est le principal offensé, des deux côtés, il y a eu tiraillement, il y a eu guerre, on s'est blessé. Et toute personne qui est en guerre, on peut peut-être faire l'historique de la guerre, mais c'est vrai que dès que la guerre a commencé,
Tout le monde a un moment ou un autre offensé l'autre. À ce moment-là, la responsabilité est partagée. Et parce que la responsabilité est partagée, il faut non seulement pardonner à l'autre de manière unilatérale pour ce qu'il nous a fait, mais aller lui dire, pour ma part, ce que j'aurais fait, consciemment ou inconsciemment, volontairement ou involontairement, qui t'aurait blessé, je te demande aussi pardon pour cela. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'il ne faut pas devenir non plus un hypocrite qui pense qu'il n'a rien fait, mais qui se déplace pour demander l'autre pardon parce qu'on a dit que le chrétien doit demander pardon. Non, le chrétien demande pardon s'il est bien conscient qu'il y a une situation dans laquelle, même si ce n'est pas prémédité, il a aussi fait du mal. Par exemple, il s'est énervé, il avait raison, mais il s'est énervé, il a insulté l'autre. Il n'aurait pas dû le faire. Il peut aller demander pardon pour n'avoir pas su se maintenir. Et une fois encore, la vérité libère. Quand vous allez demander pardon ne veut pas dire « je t'ai fait du mal, je te demande pardon ». La plupart du temps, on ne fait même pas du mal volontairement, comme vient de l'expliquer madame. Et vous allez avoir de la facilité, avoir l'humilité d'aller demander pardon quand vous savez dire « je ne voulais pas te faire mal forcément » ou « j'étais en colère, nous nous sommes fait beaucoup de mal, je te demande pardon pour le mal que ça t'a fait ». En plus, pour ma part, moi, j'ai vidé mon cœur, je ne t'en veux pas. La personne peut accepter votre pardon, ne pas accepter votre pardon, ça ne change rien. Le plus important, c'est que vous avez vidé. Donc, attention, parce que je perçois dans certaines questions que des gens qui n'ont pas de raison d'aller demander pardon vont sous prétexte de devoir pardonner, aller voir l'offenseur pour demander pardon. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit non plus sans discernement. Et je crois que c'est ce que Madame Dickel dit, selon que le Saint-Esprit vous conduit. Ça doit être un acte de vérité, ce n'est pas non plus une comédie. Ça doit rester un acte de vérité, inspiré par la vérité dans tous les cas.
Oui. Quand on parle du figuier, par exemple, qui a été maudit, c'est synonyme de porter des fruits. Car Christ dit, celui qui le suit, là, on le reconnaît à ses fruits. Et il a même dit, si un arbre ne porte pas de fruits, 1 an, 2 ans, 3 ans, coupé. C'est différent de pardonner. On ne peut pas pardonner un objet. Un objet ne parle pas. Un objet, est-ce qu'un objet peut offenser quelqu'un? Un objet, non. Je pense que c'est des offenser et puis se demander peut-être pardon ou bien décider de pardonner l'autre. Mais en matière d'arbre de figuier, autre chose, ce n'est même pas dans ce contexte. Quand Jésus allait dans le temple, il y avait le désordre. Il a dit qu'il veut mettre l'ordre dans la maison de son père. C'est différent. Il ne sait pas qu'il va pardonner, ce n'est pas parce qu'il a pardonné qu'il va les laisser développer un marché. Le temple n'est pas fait pour être un marché. Ce n'est pas à l'église qu'on va faire du commerce, ce n'est pas à l'église qu'on va faire du n'importe quoi. Non, c'est ça que Jésus est en train de refuser. Il est en train de décourager. Il a cassé, il a rebâti. Ça n'a rien à voir avec le pardon dont nous parlons. Parfois, vous savez, il y a des versets peut-être dans la Bible que les gens prennent pour développer peut-être certains thèmes. Ça veut dire la même chose, mais tout propos pris hors de son contexte n'est que prétexte. Dans quel contexte ils ont utilisé peut-être pour vous dire pardon? Mais il ne peut pas pardonner et laisser le temple comme ça. Ah non, le temple c'est la sainteté, c'est la maison de Dieu, c'est la demeure de Dieu. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, notre corps est le temple du Seigneur. Si notre corps est le temple du Seigneur, nous ne pouvons pas mêler les choses souillées aux choses saintes. Parce que la Bible dit, séparer les choses vives des choses saintes. Les choses viles, c'est tout ça, là, c'est les péchés, c'est tout ça. On ne peut pas dire parce qu'on a pardonné, garder tout ça là pour se dire, bon, c'est mon corps, le temple de Dieu, c'est pas gardé, va me pardonner, je continue dans le péché, bon, je ne me répands pas. Non, c'est pas ça. C'est peut-être deux choses différentes. Oui, tu peux ajouter?
Oui, alors je voudrais ajouter quelque chose. Vous savez, il faut prendre la parole de Dieu comme un tout. Même le pardon dont nous parlons, il faut le remettre dans le contexte biblique. Le pardon, c'est quoi? C'est un acte d'amour. Dieu dit qu'il faut aimer son prochain. Et attention, l'amour dont Dieu parle en disant qu'il faut aimer son prochain, ce n'est pas l'amour philéo, ce n'est pas l'amour eros, c'est l'amour de Dieu. C'est-à-dire l'amour qui consiste à dire, quel que soit ce que les gens font, je leur fais du bien, je leur veux du bien. C'est un peu comme Dieu ne tient pas compte de ce que nous faisons pour nous vouloir du bien ou pas. Et Dieu, en nous disant d'aimer nos prochains, nous dit, fais du bien aux autres quoi qu'ils fassent. Et quand Dieu nous dit de pardonner, il est en train de nous dire, quoi que les autres vous fassent, n'arrêtez pas de vouloir leur bien et rien que leur bien. Que quelqu'un en vous offensant ne vous fasse pas décider que lui, maintenant, il mérite qu'on ne lui fasse plus du bien. Parce que Dieu, quoi que vous fassiez, vous fait du bien. Maintenant, cela veut dire que le pardon est un acte d'amour. Or, la Bible nous dit que qui aime bien, châtie bien. Si mon enfant, par exemple, il a 18 ans, il me fait quelque chose qui me fait très mal, ou bien il a 15 ans, il fait quelque chose qui me fait très mal. En tant que père, c'est un acte de rébellion pour circoncire son cœur, pour que demain il ne devienne pas un grand bandit. J'ai le devoir de le punir. S'il faut le frapper, je vais le frapper. S'il faut donner d'autres punitions, j'ai le devoir parfois à contre-cœur de le punir pour l'éduquer. Et je peux prendre une décision peut-être très pénible pour le punir. Mais je peux finir de le punir et pendant un an lui en tenir rancune, ne plus le saluer, des pères qui tiennent rancune à leurs enfants, qui ne veulent plus leur faire des cadeaux, qui ne veulent plus leur faire aucune faveur pendant un an. L'enfant paye le prix peut-être d'avoir insulté son père dans une réunion familiale. Ça, c'est un père qui a puni, mais qui n'a pas pardonné. Mais le père qui craint Dieu le punit par amour parce que qui aime châtie. Mais dès qu'il a fini de punir, le lendemain, il appelle pour dire, mon fils, je t'ai puni hier parce qu'il y a des lois dans la vie. Ce que tu fais va donner tel truc. Et qu'il le réconcilie encore, qu'il le rapproche encore et qu'il continue de l'aimer comme un père. Oubliant dès le lendemain son péché à partir du moment où le péché a été puni. Donc, je suis en train de percevoir dans vos questions que vous opposez le pardon au laisser-faire. Dieu ne dit nulle part qu'il faut laisser faire. Il y a des mécanismes institutionnels, nationaux, légaux, ou même en termes d'autorité parentale, qui consisteront parfois, conformément à la parole de Dieu même, d'appliquer des réactions et des sanctions à quelque chose. La Bible dit, par exemple, si ton frère te fait quelque chose, appelle-le, dis-le lui. Tu ne vas pas dire qu'au nom du pardon, ton frère t'a offensé, tu gardes ça dans ton cœur, tu le pardonnes. Non. Tu dois respecter aussi la parole de Dieu qui dit, quand ton frère t'a fait quelque chose, appelle-le, dis-le lui. Ne garde pas ça en faisant l'hypocrisie sous prétexte qu'on t'a demandé de pardonner. Non, le pardon n'est pas au niveau du traitement du problème. Il est au niveau de ne pas garder rancune, c'est-à-dire de ne pas décider à cause du problème de ne plus vouloir faire du bien aux gens. Je ne sais pas si vous dissociez les deux. Parfait.
Pour moi, le pardon, en fait, c'est vrai. Ce n'est pas laisser faire. Mais ce n'est pas de chercher à régler humainement quelque chose qui ne relève pas de vous. Quand il y a une situation dans un pays ou quelque chose que vous jugez à l'échelle internationale, ce n'est pas normal. Ce n'est pas à vous. Vous n'êtes pas habilité, vous n'avez pas l'autorité, vous n'avez pas le pouvoir de vous lever pour aller combattre ça. Donc, ne vous limitez pas dans vos petites têtes pour dire, bon, ce n'est pas normal, on aurait pu faire. On aurait pu, oui, mais dans ta tête, qui rentre dans ta tête pour prendre ton idée là pour aller faire après. Donc, vous perdez le temps. Donc, ne vous prenez pas au piège. C'est vrai, le pardon, ce n'est pas laisser faire. Mais ce n'est pas non plus chercher à juger quelque chose qu'on n'a pas l'autorité de changer ou on n'a pas le pouvoir de restaurer ou de transformer. On est d'accord. Donc, il y a une question qui rejoint déjà ce qu'il vient d'expliquer. Faut-il entretenir une relation avec la personne pardonnée? Oui? Et puis non. Si vous voyez que tel qu'il a expliqué le cas de certaines personnes qui sont parties, ils ont fait la paix, mais ils sont partis. Mais quand vous voyez peut-être que ce que la personne vous a fait, c'est peut-être qu'il ne savait pas qu'il a fait. Il a fait par ignorance, inconsciemment parfois. Parce qu'il y a des gens qui vous offensent inconsciemment, qui ne savent même pas. Ce n'est pas pour cela qu'il faut faire la paix, mais le jeter et dire, bon, c'est fini, je ne fais plus jamais rien avec toi. Ce n'est pas pour cela non plus qu'il faut dire, bon, tu sais, je l'ai pardonné, j'ai décidé de le pardonner dans mon cœur, mais je ne peux plus jamais rien entreprendre avec. Donc, il faut comprendre quand même les limites. Ça peut être selon le cas, vous pouvez pardonner quelqu'un et décider de refaire encore quelque chose avec lui. Tout comme vous pouvez pardonner quelqu'un et dire, gardons juste la distance, je ne t'en veux plus, il n'y a plus rien entre nous qui nous oppose, mais je préfère rester sur mes gardes, reste sur tes gardes. En fait, on dit, comment pardonner? On a déjà expliqué ça. Comment faire pour se pardonner une faute grave commise envers une personne honnête? Oui, là par exemple, la Bible dit, que lorsque nous péchons et que nous nous repentons sincèrement du péché, ça dit se repentir là, c'est pas Seigneur pardonne-moi, un exemple, j'ai tué quelqu'un, Seigneur pardonne-moi, c'est pas se repentir là. Ce que je viens de faire là, après avoir posé là, j'ai compris que c'est mauvais et je décide de ne plus commettre cette faute là, Mais je dois demander pardon à Dieu parce que je l'ai déjà posé. Cette acte-là, je l'ai déjà posé. Vous demandez pardon à Dieu. Si vous demandez pardon à Dieu et que vous pensez que vous n'êtes pas pardonné, vous êtes toujours lié. Et c'est ce que le diable utilise souvent, l'intimidation pour vous dire, c'est trop banal. C'est là que toi, tu viens de faire, tu as demandé pardon comme ça à Dieu, puis tu penses que c'est fini, c'est pas fini. Donc, le diable vous garde dans les liens d'intimidation, de peur, de... Dans vos pensées, il trouve vos pensées pour vous faire croire que vous n'avez pas reçu le pardon. Mais si vous-même, vous pensez que vous n'avez pas reçu le pardon, Dieu ne peut pas vous accorder ce pardon-là. Vous ne pouvez pas prendre possession de ce pardon-là. Donc, pour vous libérer, quand vous demandez, vous faites un repentir sincère devant Dieu, vous devez croire que réellement Dieu vous a pardonné. Vous levez et démontrez, c'est ça la foi. Démontrez maintenant que Dieu vous a pardonné ce péché, mais vous ne commettez plus ce péché-là. Et vous-même, vous êtes libéré. Et après, vous pouvez maintenant demander à celui que vous avez offensé. Si vous en êtes convaincu par l'Esprit de Dieu, je ne savais pas avant de te le faire. Et souvent, quand c'est dans des groupes, quand vous offensez quelqu'un, c'est bon de dire, tu sais, vraiment, j'ai constaté que, bon, j'ai commis un acte que tu n'as pas aimé, qui t'a offensé, je te présente mes excuses. Par exemple, si vous êtes un groupe de personnes qui travaillent, par exemple, ensemble, professionnellement ensemble, ce n'est pas quand vous décidez de pardonner, que vous avez fait quelque chose, vous avez offensé quelqu'un sans le savoir, que vous allez vous dire, bon, je te pardonne, mais je viens au bureau demain, je ne te parle pas. Gardons nos distances, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Ça, c'est comme votre vie de tous les jours. Libérez-vous, l'autre comprend, vous avancez. Mais ne dites pas que vous êtes lié à ça et que tous les jours, il faut traîner ça. Bon, il n'a qu'à rester en quarantaine. Bon, je ne peux pas aller lui donner le dossier. Et s'il te plaît, il va lui donner le dossier là-bas. On ne se parle pas. Mais on a déjà demandé pardon. Non, ce n'est pas ça qu'on demande. Libérez votre cœur. Quand vous le faites, Dieu vous le pardonne et vous êtes libre de ce péché-là. Parce que le sang de Jésus, le sang de l'agneau efface tout acte dont les ordonnances nous condamnent. Si vous le croyez. Peut-on pardonner l'infidélité de son petit ami? En tout cas, on en a parlé, mais là, infidélité de son petit ami. Il est encore petit, il n'est pas encore devenu marié. Et il commet certaines choses. Il faut comprendre, si vous-même vous voyez que là, c'est un mauvais terrain, dites-lui, je t'excuse, mon gars, on arrête. Et puis on continue après. Sinon, on risque de faire des dégâts en cours de route. Ça, là, pardonnez, puis avancez. Mais sinon, petit poisson deviendra grand. Hein? Parce que si infidélité, un peu seulement s'ajoute, ça devient beaucoup seulement, ça deviendra blagada seulement. Ah oui, parce qu'il y a des comportements que quand vous êtes encore petit ami, bon, personne ne connaît, bon. On est en train de se voir façon en cachette là. Là, bon, on se dit, c'est pas encore grave. C'est pas encore votre vie. Ça, là, c'est réellement petit ami. Mais, quand maintenant vous arrivez à un certain niveau de fidélité, là, on va le faire, soit on va le dire, les cas de vérité, mon gars. Ça, là, ça se passe pas comme ça. Hein. Je pardonne, mais attention, les bases, oui. Mais quand c'est petit ami qui, chaque soir, vous allez là-bas, il y a copine dans son lit. À n'importe quel moment, il est là-bas. Vous le voyez en ville, il a acheté un jet, et puis là, il a acheté encore. Celle qui va rester sur la moto derrière, comme le dirait l'autre, là, ça devient une chose, il faut couper court pour ne pas aller très loin dedans. On dit la session, hein? Comment? Amour pardonne à tout, est-il vrai? Ça dépend. L'amour pardonne tout, l'amour supporte tout, l'amour fait quoi encore tout? Dans le livre de Corinthiens. Cet amour-là, il ne faut pas confondre ça avec vos concubinages de rue, là. Oui, hein? Avec les petites filles que vous voyez, puis en même temps, tu m'aimes, je t'aime, allons à la maison, là. Ce n'est pas cet amour-là, hein? Yo. Ce n'est pas ça. Ça dit qu'on parle là même d'abord de l'amour de Dieu pour quelqu'un. Quand tu l'aimes de l'amour de Dieu, c'est ça que je me suis expliqué tout à l'heure en disant, c'est pas l'amour filéo. Non, c'est pas l'amour sentiment, je te l'aime, tu te l'aimes, comme j'ai dit là, souvent là, pour vous faire rire là. Oui, c'est pas ça là. Quand tu aimes quelqu'un de l'amour de Dieu, ce n'est pas ce que la personne fait qui t'amène à l'aimer. Mais tu l'aimes sans condition, par amour de Dieu, parce que Dieu dit d'aimer point bas. C'est différent des sentiments. C'est trop différent. C'est de ça qu'on parle, c'est vrai. Mais ce n'est pas je t'aime, ma chérie, tu m'aimes, j'aime. Il ne peut pas t'aimer jusqu'à et puis être fidèle au nom de cet amour sentiment là. Hein. Non, ce qui brûle en lui là, quand ça va se refroidir, il oublie. Non, c'est pas ça là. On est d'accord. Fait-on tout pardonner? Oui. Oui, ça là je dis oui. Tout. Pour être libre. Dieu pardonne-t-il sans un véritable repentir de notre part? Vous-même, vous avez déjà dit sans un véritable repentir. On ne blague pas Dieu, non? On a déjà parlé de ça tout à l'heure, on ne blague pas Dieu. Non! Repentez-vous. Si la repentance, ça, c'est pas. Ah, Seigneur, ce que j'ai fait ce matin-là, c'est pas bon. Je te demande pardon. Non! C'est pas ça. C'est vrai qu'il y a des choses que des gens nous font souvent. Mais qui nous blesse, c'est que si ce n'est pas Dieu là, comme j'ai raconté, si ce n'est pas Dieu là, si c'est humainement là, je ne pardonne pas. Je garde. Mais quand je me rappelle de la parole de Dieu, je dois pardonner. Et quand je veux demander pardon à Dieu, ça doit être dans un repenti sincère. Seigneur, regardez un peu la vie de David. La Bible dit que David, le roi David, celui qui a écrit les psaumes là, il est l'homme selon le cœur de Dieu. Mais David a péché plus que tout le monde dans la Bible. Est-ce que vous savez ça? David a péché plus que tout le monde. Si je peux même dire les pires péchés là, c'est David qui a commis. Mais Dieu dit, il est l'homme selon mon cœur. Vous êtes posé la question de savoir comment il est l'homme selon son cœur. Le psaume 51, c'est lui qui a écrit. C'est le repentir sincère de David après avoir pris la femme de son serviteur. Le psaume 51. Vous voyez, et il était, quand vous lisez, vous sentez réellement que son âme était abattue. Parce qu'il s'est rendu compte que ce péché-là, tel que je connais Dieu là, ça c'est grave. Ah Seigneur, pardon, jamais. Et vous allez voir que David n'a jamais commis deux fois le même péché. Jamais. Donc ça veut dire qu'il ne sait pas, peut-être qu'il fait par ignorance, mais quand il se rend compte, attention, il sort de ce péché et ceci définitivement, il ne revient plus sur le même péché. Jamais. C'était ça la force de David. Donc un repenti sincère, ce n'est pas dire Seigneur, pardon, excuse-moi. Hein? Regardez-moi celui-là. Non. Ce n'est pas dire, bon Seigneur, je ne vais plus voler. Mais c'est l'esprit. Et puis tu regardes, personne n'est là, Seigneur, c'est l'esprit, tu prends. Comme l'autre qui vient devant la statuette de Marie à l'église catholique, et chaque fois, il finit, la messe finit, vient devant la statue de, comment vous appelez ça, de Marie, là, à côté, là, et il dit, Vierge Marie, je n'ai rien mangé depuis le matin, s'il te plaît, donne-moi quelque chose. Et il regarde à gauche, à droite, il voit personne, et il prend, donc c'est Marie qui lui dit de prendre. Et il prend l'argent, l'enfant qui est là. Et il s'en va chaque jour. Un jour, le prêtre l'a vu. Le prêtre est allé se cacher derrière la statuette de Marie. Il ne savait pas. Et il est venu encore après la messe. Vierge Marie, depuis le matin, je n'ai rien mangé depuis. S'il te plaît, donne-moi quelque chose. Et puis, il regarde à gauche, à droite. Et le prêtre là derrière, il dit, il a mis la main dedans, ne prends pas. Et il dit, tais-toi, Vierge Marie, depuis quand tu as commencé par parler. On l'a attrapé. Ah, non, il sait que. Lui, il sait que les statuettes ne parlent pas. Vous voyez, non, lui, il sait que les statuettes ne parlent pas. Il dit, tais-toi, Vierge Marie, depuis quand tu as commencé par parler. Et le prêtre est sorti. Il dit, oui, c'est moi, la Vierge Marie, qui parle. J'ai été attrapé aujourd'hui. Si c'est ce genre de repenti, bon, des personnes là, hein, bon Seigneur, vraiment, je ne peux pas résister, je prends calme. Non, ce n'est pas ça. Tu te repens et tu demandes la force au Seigneur de ne plus retomber dans le même péché. Et toi-même, tu assujettis ton corps pour ne plus retomber dans la même erreur. C'est ça, en fait, le repenti, c'est ce dont on parle. Si le fait de pardonner, comment?
La personne est susceptible de vous nuire. Okay. Est-ce que le fait de lui avoir pardonné, mais c'est-à-dire sur le plan spirituel, hors d'atteindre des attaques que cette personne pourrait vous...
Bien sûr. C'est-à-dire c'est dans ce cas-là que vous séparez, comme monsieur a dit là. Vous faites la paix, comme peut-être Isaac, et puis vous partez, vous prenez votre chemin. Ou parfois vous décidez même dans votre cœur de lui pardonner pour ne pas aller là-bas. Peut-être que le jour où il va dire, bon, on fait la paix, vous donne de l'eau, là, il met quelque chose dedans. Non. Vous décidez dans votre cœur, puis vous pardonnez, vous laissez tomber. Mais dans ce cas, la Bible dit, toute malédiction sans cause n'aura pas d'effet. Parce que vous, vous l'avez sincèrement pardonné. Vous avez laissé à la limite, vous priez encore pour que Dieu touche son cœur. Ça ne peut pas avoir d'effet. C'est impossible. Différence entre la vie de celui qui pardonne et celui qui ne pardonne pas. C'est ça que j'ai expérimenté. Celui qui ne pardonne pas garde son fardeau seul. Et ça pèse des années. Et là, vous n'avez même plus la force de faire quoi que ce soit. Et vous perdez tout votre temps parce que vous n'avez pas libéré votre cœur. Vous avez tout ce qu'il faut. C'est-à-dire, vous êtes malade, vous êtes aigri, et puis vous portez ce fardeau-là seul, vous en voulez à tout le monde, vous allez vieillir avant l'âge. Oui, les soucis-là, ça vieillit. Quand vous ne pardonnez pas, vous portez l'angoisse sur vous. Tout ça, la paix sur votre dos. Et puis vous allez, c'est-à-dire, même le bonheur ne peut pas arriver là où il n'y a pas la paix, là où il n'y a pas la joie. Ça ferme toutes sortes de portes. À un moment donné, les gens ne vont même pas comprendre, on va dire que non, Kandi. Mais en réalité, ce n'est pas Kanourou, c'est qu'il a trop amassé le poids. Le poids, le fardeau, le fardeau, le fardeau, à tel point qu'il n'a plus de force pour faire quoi que ce soit. C'est pourquoi on doit libérer son cœur pour être en joie. On doit complètement libérer son cœur. Parce que Dieu lui-même dit, si vous pardonnez, je vous pardonnerai comme vous pardonnez. Donc, à la limite, il faut pardonner pour être libre, pour être quitte. Ou bien. Celui qui n'a jamais été éprouvé dans sa vie, peut-il pardonner? Les épreuves. On va demander à monsieur, il va parler encore un peu.
Alors, je suis tenté de dire, comme la Bible, que personne ne peut donner ce qu'il n'a pas reçu. Cela veut dire que pour pouvoir donner l'amour de Dieu, il faut avoir reçu l'amour de Dieu. Quelqu'un qui est charnel, qui n'a pas reçu le Saint-Esprit, qui n'est pas en Jésus, vous allez voir, on peut tout lui expliquer humainement, il ne peut pas pardonner. Ce n'est pas dans la nature charnelle de l'homme déchu que de pouvoir pardonner. Mais quand vous avez reçu le Saint-Esprit, vous avez reçu l'amour de Dieu. Vous étiez pécheur, vous avez vu Dieu vous toucher. Et vous voyez Dieu faire des choses dans votre vie. Quand vous savez, plus vous avez reçu la grâce, plus vous avez de la facilité à donner la grâce, parce que vous avez quasiment honte. Sachant ce que Dieu vous a pardonné à vous, si vous êtes un peu sincère, vous devez avoir de la facilité à pardonner aux autres. Vous allez voir des gens comme Paul. Quand Paul reçoit ce niveau de pardon de Dieu, comment il peut ne pas pardonner aux autres? Vous voyez les gens comme David, quand après le chagrin qu'il a eu face à son péché, il voit Dieu le pardonner. Cela ne peut que lui donner la capacité de pardonner. Son propre fils lui a fait coup d'état. David ne voulait même pas qu'on le tue. Parce que David a expérimenté l'amour et le pardon de Dieu. De ce point de vue, celui qui effectivement n'a jamais éprouvé l'amour de Dieu, qui n'a jamais touché le cœur de Dieu, le pardon de Dieu, il peut pardonner, hein, mais il va avoir du mal à pardonner facilement. Mais celui qui a compris qui est Dieu, et celui qui a compris ce qu'est la grâce de Dieu, ne peut que pardonner parce qu'à la limite, il a honte de ne pas pardonner quand il voit tout ce que Dieu a fait et continue de faire pour lui. Et c'est de ce point de vue que nous parlons là techniquement du pardon. Mais je pense qu'à la fin, il faut permettre à ceux qui le veulent de donner leur vie à Jésus. Parce qu'en réalité, vous avez un peu raison. Nous sommes dans un domaine de définition. C'est comme on est des aigles en train de voler. Si tu es un léopard, tu n'as pas d'aigle. On peut parler, parler. Quand nous allons décoller, tu resteras au sol. Tu peux sauter, faire le même mouvement que nous avec tes pattes. Il n'y a pas de possibilité qu'un aigle vole avec des léopards, à moins que le léopard n'ait des ailes. Donc peut-être qu'il y a des léopards parmi nous. Il faudra qu'ils deviennent des aigles.
On va profiter pour lui donner la deuxième question. Pourquoi Dieu ne peut-il pas pardonner le péché contre le Saint-Esprit?
Alors, le péché contre le Saint-Esprit est expliqué dans la Bible. Il y a deux sortes de péchés, même au niveau des enfants et au niveau de tout le monde. Je disais encore la dernière fois à mes collaborateurs et directeurs, il y a deux sortes de péchés, même qu'un enfant commet. Il y a les péchés d'incompétence, d'erreur, de naïveté, d'inattention, d'incapacité, et il y a les péchés de rébellion. Un enfant qui se trompe, un enfant qui n'a pas fait ses leçons, un enfant qui a menti, un enfant qui fait beaucoup de bêtises, c'est pas que c'est bon, mais c'est, on sait que c'est un peu normal comme un enfant, on sait que c'est de son âge, on sait que c'est une erreur, on sait que ça va venir. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas sanctionner ça, mais c'est une catégorie de péché. Ce n'est pas des petits péchés, mais c'est un premier registre de péché. Il y a une deuxième catégorie de péché que j'appelle la rébellion. Par exemple, moi, ma fille, ma deuxième fille, je ne l'ai jamais frappée sauf une seule fois. Et depuis, je ne l'ai plus touchée. Et son petit frère a fait la même chose il y a peut-être 2-3 mois. Je lui ai fait appliquer la même correction. Ça veut dire quoi? Par exemple, son petit frère fait mal à sa grande sœur. Il a 3 ans, hein? Il fait mal à sa grande sœur qui a 7 ans. Toute la maison, pendant 2 heures de temps, le supplie de demander pardon à sa sœur. On le frappe, mais il est têtu dans le genre, faites n'importe quoi, moi je ne dirai pas pardon. Je dis à 3 ans, ce cœur à pouvoir résister à tout le monde, à avoir l'orgueil pour refuser à 3 ans de dire pardon, ce n'est pas un péché, ce n'est pas une erreur. C'est Satan qui met la rébellion dans son cœur, quitte à l'attacher à le battre toute la nuit à 3 ans, je vais briser définitivement cet esprit de rébellion dans sa vie. Car si à 3 ans il est comme ça, quand il va avoir l'âge des gens que je vois dans notre pays aujourd'hui, il va tuer le pays. Ma fille à l'époque, c'était quoi? Je crois qu'elle avait insulté sa maman, elle avait peut-être 3 ou 4 ans aussi. Elle avait insulté une fille très gentille, hein, c'est la plus gentille de mes filles. Mais Satan semble même briser, jeune le cœur des enfants qui ont une grande destinée. Elle insulte sa maman. Jusque-là, qu'un enfant de 3 à 20 insulte à maman, ce n'est pas grave. Je demande de dire pardon. Elle dit non, qu'elle ne demandera pas pardon. J'ai tout fait, elle a dit non. Eh bien, je l'ai proprement corrigé. Elle a fini par dire pardon. Et depuis, elle est une fille très gentille. Elle n'a plus jamais fait d'acte de rébellion. La Bible nous dit que le cœur de l'enfant est vicieux contre le mal et que l'adulte doit le circoncire.
Exactement.
Cela veut dire quoi? De la même manière qu'un adulte qui éduque doit dissocier l'erreur, la faute de l'enfant de l'acte de rébellion, de défi à l'autorité et briser l'acte de rébellion à l'autorité. Regardez avec Moïse. Quand les Corées ont commencé à contester l'autorité de Moïse, la terre s'est ouverte pour les engloutir. Chaque fois que quelqu'un défie l'autorité de Dieu, Dieu le brise sans aucune négociation. Le péché contre le Saint-Esprit n'est pas un péché de désobéissance à la loi. C'est la rébellion à Dieu. C'est le fait de connaître Dieu. Si tu ne connais pas Dieu, tu n'es jamais né de nouveau, tu dis que Dieu est bandit, c'est pas grave. Ça, Dieu sait, tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu es un ignorant. Donc Dieu n'a pas s'énerver contre les ignorants. Mais le péché du Saint-Esprit, c'est quelqu'un comme moi, imaginez comme moi là. Je connais le Saint-Esprit. Je prophétise. J'ai des révélations. J'ai le don de la parole. J'ai atteint un niveau où j'ai connu, je pratique, j'expérimente et j'ai une communion avec le Saint-Esprit. Je ne suis plus dans la catégorie qu'on peut dire que je ne sais pas qui est Jésus. Je me lève et je me dis, bon, il y a quand même une affaire de 10 milliards là. Franchement, je sais que Dieu n'aime pas ça. Mais quitte à renier Jésus et puis après, je vais venir dire que je m'étais trompé. Moi, je vais entrer dans cette affaire là-bas pendant 2 ans. 10 milliards, on en a doué. Donc, je vais à la télé à cause de 10 milliards. Et je dis, bon, écoutez les Béninois. Vous avez fait 4 dernières années, je vous ai raconté des bêtises. Hein. Leur affaire de Jésus, ça ne veut rien dire. J'ai dit ça parce qu'il fallait bien dire quelque chose. Comme les hommes politiques font là, ou bien comme les égards font là. Ça, c'était des bêtises. En fait, Jésus, c'est le diable. Jésus et tout le Satan, ce n'est que le prince de lumière. Et je commence à renier la foi de manière consciente. C'est de la rébellion contre Dieu. Ce péché-là ne me serait jamais pardonné. Il m'enverrait en enfer. Rien ne pourrait m'en sauver ou m'en sortir. Quand délibérément, vous décidez de vous rebeller contre Dieu, en toute connaissance de cause. Ce n'est pas que vous ne connaissez pas Dieu. Ce n'est pas que vous croyez que Dieu est ailleurs. Même ceux qui ont Dieu Jésus, ils ont un avantage. Ils croyaient sincèrement que ce n'était pas Dieu. Paul a persécuté Étienne, mais quand Jésus s'est arrivé, il dit, pourquoi me persécutes-tu? Il s'est arrêté. Donc, tu peux même tuer Dieu comme Jésus. Ce n'est pas encore le péché contre cet esprit. Tant que tu croyais sincèrement que ce n'était pas Dieu. Mais le péché contre cet esprit, c'est quand tu sais que c'est Dieu, clairement, et tu viens le narguer, sachant que tu es en train de narguer Dieu en disant après tout, il a dit qu'il pardonne. Là, tu n'es pas en train de faire une faute, tu es en train de faire la rébellion. Ce péché-là ne te sera jamais, jamais pardonné. J'espère que c'est clair, si ça vous tentait.
Clair, limpide comme l'eau de roche. Une explication en profondeur de pardonne-nous nos offenses, c'est pas qu'on nous pardonne, comme nous pardonnons. On a déjà parlé de ça, non? Est-ce une grâce ou un acquis tant qu'on reçoit de Dieu le pardon, pas pure grâce. Pas pure grâce. À qui? Qu'est-ce que vous avez fait pour payer? Et ça va devenir à qui? Non, ce n'est pas ça là qui fait que Dieu vous pardonne vous aussi. Non. C'est vrai, Dieu a dit, si vous ne pardonnez pas, je ne vous pardonne pas. Mais ça ne veut pas dire que c'est ça le passeport pour dire Dieu, hé, j'ai déjà pardonné, tel. Maintenant, pardonne-moi aussi. Ah non, hein. Non. Non, pas du tout. Dieu nous pardonne par pure grâce. Et cette grâce-là, nous l'avons reçue par l'œuvre de la croix. Parce qu'il a déjà payé le prix pour nous. Et c'est comme quand monsieur explique un peu en disant, mais la loi dit qu'on ne peut pas payer deux fois pour le même péché. C'est ça, non? Si tu payes une fois, c'est fini. Donc, Jésus-Christ, si tu connais la loi de Dieu, Jésus-Christ a déjà payé pour nos péchés. Et ils l'ont déjà tué, son sang a coulé. Pourquoi moi je vais payer encore pour ça? Il a déjà payé. Et je lui appartiens. Et parce que je lui appartiens maintenant, je bénéficie de cette grâce-là pour être pardonné. Ce n'est pas nos actes qui nous justifient, mais c'est l'œuvre de la croix qui nous justifie. Ce n'est pas le mérite de quelqu'un. C'est par pure grâce. Par pure grâce, par l'œuvre de la croix. C'est pourquoi, quand monsieur dit tout à l'heure, il faut que des gens qui n'ont pas encore eu l'occasion donnent leur vie à Christ. C'est-à-dire, si vous ne laissez pas le contrôle de votre vie à Christ, vous ne pouvez rien avoir. Et j'avais expliqué en disant, quand Jésus-Christ était venu sur la terre, il a pris la forme humaine pour arriver sur la terre. Dieu lui-même a pris la forme humaine et puis il est né. Il est arrivé pour nous redonner l'autorité que Adam, le premier Adam, a déjà vendue au diable. Cette autorité-là, il a donné ça au diable en mangeant le fruit défendu. Donc, le diable a pris l'autorité de l'homme. Et à partir de cet instant, l'homme n'avait plus l'autorité que Dieu lui a donnée au départ. Maintenant, pour nous redonner cette autorité, Dieu en tant qu'esprit ne peut plus revenir prendre ça sur la terre. Et non, il nous a donné un bail sur la terre. La terre, c'est pour béton. Et on est là. Donc, le diable lui-même sait que Dieu ne peut pas descendre en tant qu'esprit sur la terre pour venir agir. C'est pourquoi il dit parfois, n'es-tu pas le fils de Dieu? Ah, tu ne peux pas arriver avant le temps convenu. Il y a le temps convenu. Quand je dis jugement là, il y a tout ça là qui vient. Le temps convenu n'est pas encore arrivé. Donc, ils sont tous deux esprits. Et ils sont là. Le diable utilise les gens par son esprit mauvais. Donne la sorcellerie, fais ci, fais ça, sois méchant, sois ci. L'esprit de Dieu te fait faire du bien, te conduit sur les voies de l'éternel. Alors, Jésus-Christ, quand il est allé à la croix, il s'est chargé sur lui à la croix de nos péchés, de nos infirmités. Et la Bible nous le dit. Quand il a pris tout ça là, parce que Dieu dit, quand il y a péché là, il y a un grand mur. Entre vous et moi Dieu. Parce que je ne peux plus vous voir. Quand il y a péché, il doit y avoir mort. Ça c'est clair. Ça peut être spirituel comme que physique. Il doit y avoir mort. Alors, Jésus-Christ, quand il s'est chargé de tous nos péchés, de tous les êtres vivants, sur lui, Dieu ne pouvait plus le regarder. Il a détourné le regard. Parce qu'il a détourné le regard, c'est fini. Et il est descendu dans le séjour des morts où il y avait le diable. Et c'est là qu'il a dominé le diable dans le séjour de la mort. Et il est ressorti avec cette autorité-là. Maintenant, il a pris cette autorité que Adam lui avait vendue. Et il a pris cette autorité et dit maintenant, celui qui me laisse diriger sa vie, je lui redonne l'autorité. Et celui qui ne me laisse pas diriger sa vie n'a pas droit à cette autorité-là. Donc, il y a une différence entre un enfant de Dieu et quelqu'un qui ne connaît même pas Dieu, qui n'a jamais entendu parler de Dieu. Il est une créature de Dieu. Celui qui ne connaît pas, il est une créature de Dieu. Dieu l'a créé. Mais il n'est pas un enfant de Dieu. Il y a une différence entre un enfant dans une maison et les serveurs ou bien les servants que vous recevez à la maison. Il y a une grande différence. Donc, à partir du moment où tu laisses ta vie, et tu dis à Dieu maintenant, viens prendre le contrôle de ma vie, diriger ma vie. Je veux faire ce que tu veux que je fasse. Il te redonne l'autorité et tu domines maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, le diable. Et tu peux lui ordonner. Tu peux chasser les démons. Tu peux faire tout ce que Christ a fait et même au-delà. C'est ce qu'il a dit. N'est-ce pas? À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et à partir de ce moment maintenant, vous pouvez parler, vous connaissez Dieu. Il y a des choses que vous pouvez faire, Mais si vous ne l'avez pas en vous, il y a des limites. Tu ne peux pas être sur le territoire du diable et dire qu'il est mauvais, il va te gifler. Donc, c'est essentiel de laisser notre vie à Christ pour mériter ça. Donc c'est cette grâce-là, quand il est allé à la croix du calvaire, son sang a coulé, c'est cette grâce-là qui fait que nous avons le pardon de nos péchés, parce que par son sang coulé, il a payé le prix pour nous. Et celui qui accepte, c'est qu'il ne peut plus payer deux fois ce prix. Mais celui qui ne l'accepte pas comme son Seigneur et son Sauveur personnel, il va payer peut-être par son propre sang. On est d'accord. Donc c'est par pure grâce. À part ça, peut-on pardonner quelqu'un qui ne pardonne jamais? Oui. Oui, quelqu'un qui ne pardonne jamais, non. Laissez-le. Et c'est ça, vous voyez, c'est la même chose que monsieur est revenu vous dire, parce qu'il n'était pas là quand on a commencé le séminaire. Il dit, vous devez pardonner pour être libre. Et quand vous pardonnez, c'est comme du charbon à dents que vous amassez sur la tête de l'autre. Et si on peut le dire ainsi, quand vous pardonnez là, c'est là où c'est encore plus dur pour l'autre. Il doit même accepter, fiant pour vous dire aussi, bon, j'ai accepté, mais pour toi aussi, pardonne-moi. Rapidement, pour que la grâce de Dieu soit sur lui aussi pour son pardon. Parce que s'il refuse, là, c'est grave pour lui. S'il ne pardonne jamais, non, moi je pardonne. Et j'oublie. Je pardonne, j'oublie. Dieu se charge du reste. On est d'accord. Comment aider son ami qui ne veut pas pardonner son père qu'il avait abandonné? C'est vrai. Il y a beaucoup de situations dans la vie, surtout quand il s'agit des couples, des parents qui offensent les enfants. Et je dis, quand vous avez un bout de temps, passez à la bibliothèque, lire le livre, le pardon, une puissance qui libère. Ça a parlé aussi du pardon entre en famille, du pardon de père en fils, ainsi de suite, et puis même des conjoints dans la vie. D'avoir du professionnel dans la vie active, ça, ils ont débattu de toutes les questions. Mais quand vous ne pardonnez pas votre père qui vous avait abandonné, quel que soit ce qu'il vous a fait, la Bible dit d'honorer nos parents. Ça, c'est Dieu lui-même qui a dit. Et quand vous regardez tout ce que Dieu a donné comme commandement, hein, tout, faut pas être inquiet, faut pas faire ci, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas. Et surtout dans les 10 commandements, le commandement avec promesse en même temps, là, le seul commandement avec promesse, c'est honore ton père et ta mère, et tu auras des jours heureux. Les autres, il n'y a pas de promesse dessus. Ou bien, honore ton père et ta mère, et tu auras des jours heureux. Donc, si ton père t'a abandonné, peut-être encore que tu ne sais pas comment ça s'est passé, mais tu ne peux pas écouter, peut-être, la voix de maman, ou dit que mon papa m'a abandonné. Non. Parce que parfois, même chaque parent essaie de tirer le drap de son côté. Le drap de son côté. Et quand il y a une situation, moi je dis toujours, quand deux personnes sont dans une situation d'offense, l'un a offensé l'autre et vice-versa, très souvent, nous oublions un petit détail. Il y a des moments où même celui qui a offensé là a des réactions pour lesquelles il doit demander pardon. C'est ce qu'il expliquait un peu tout à l'heure. Et quand vous prenez l'exemple que je vous avais donné, il y a des moments où j'en avais jusqu'ici. Et même dans mes demandes d'explication, j'écrivais des choses horribles. Ça aussi, je dois demander pardon parce que je l'ai offensé aussi. Bien qu'elle m'ait offensé, je pouvais ne pas répondre. Mais à des moments donnés, j'avais craqué, je répondais. C'est-à-dire que ça m'amène à avoir des réactions qui sont contre la parole de Dieu. Donc, dans ce cas-là, vous aussi, vous devez demander pardon, c'est sûr. Il n'y a pas quelqu'un qui est offensé, c'est, ça arrive. Mais, même dans sa tête, là, il ne pense pas à ce qu'il m'a fait, là, c'est méchant et je vais faire. Même s'il ne parle pas dans sa tête, lui aussi, là, il va offenser l'autre. On est d'accord. Il y a toujours quelque chose dedans. Un petit quelque chose qu'on ignore, qui offense aussi l'autre. Donc, si votre père vous a abandonné, pour Dieu, demandez à Dieu de vous donner la force de lui pardonner. Et si votre papa vous a abandonné, que vous lui en voulez à tel point que vous ne pouvez peut-être pas pardonner, avant même de demander pardon à Dieu, là, priez pour lui. Priez pour lui. Je sais que c'est difficile. Il y a des situations où on se dit, un père ne peut pas abandonner son enfant dans telles conditions. C'est dur. Et vous vous débattez tout seul. Vous vivez seul, vous payez vos coûts seul, vous faites tout seul. Mais ce n'est pas grave. Dieu l'a permis ainsi. Quand David dit dans le désert, un lépreux a craché sur David dans le désert. David a dit, je ne t'en veux pas. Mais si ce n'est pas Dieu qui a permis, toi, tu ne peux pas cracher sur moi. C'est Dieu qui a permis. Donc, ne le touchez pas, laissez-le seulement. Donc, si votre père vous a abandonné, Dieu a permis. Demandez à Dieu de vous donner la force de lui pardonner. Et quand vous allez lui pardonner, parce que si vous ne pardonnez pas à vos géniteurs, à vos parents, toutes les portes de la vie vous sont fermées. Toutes les portes de la vie vous sont fermées. Toutes les portes sont fermées. C'est ce que Dieu a dit. C'est la condition pour avoir les jours heureux. Jours heureux, là, il n'y a pas le bonheur dedans. L'ouverture de toutes les portes, ce n'est pas dans les jours heureux. Parce que si lui-même, là, il ne s'est pas fait, là, à force de ne pas pardonner son papa, il deviendra comme son papa. Et il sera pire que son papa. C'est ce qu'il ne sait pas. Il sera pire que son papa. C'est bon? Actionne celui qui... Les mobiles qui l'actionnent. Est-ce que c'est ça là qu'on vous a demandé d'aller chercher ou bien on a dit de pardonner? Parce que plus vous êtes derrière ces choses-là, vous allez trouver que ça là, on ne peut pas pardonner. Quand vous cherchez à savoir était ou câble le mot, pourquoi, le pourquoi là vous amène à ne jamais pardonner. Ça crée un blocage. Ah, le monde est injuste. Dieu est injuste. Pourquoi? Ah non, il aurait pu. Parce que toi, tu étais Dieu. C'est un film que j'ai regardé. Mais c'est dommage, je n'ai plus jamais, je ne me rappelle même plus du nom du film. Je crois qu'ils appellent ça Dieu en 24 heures ou en 48 heures, un truc comme ça. Je ne sais plus trop. Qui a regardé ça? Je ne me rappelle plus trop. Je crois que c'est Dieu en 24 heures. Le titre était en anglais, je ne me rappelle plus. Et c'est un homme qui défiait chaque fois Dieu. Et il dit à Dieu, c'est les Américains qui ont fait ça. Il défiait Dieu, il dit non, c'est injuste. Tu ne peux pas faire ça. Ah non, non. Et Dieu a dit d'accord. Brise tout puissant. Voilà. Et Dieu a dit, je te laisse mon pouvoir. Pendant 24 ou 48 heures. Et tu vas régler les problèmes. Et tu vas voir si je suis injuste ou si je suis juste. À peine il commence quelque chose, il dit, hé, hey, regarde là-bas, dans tel pays, là, il y a quelqu'un qui est là-bas, va régler. Et à peine il a atterri. Et puis, la fin du film, c'est qu'à un moment donné, là, il est tombé par terre. Il voyait une voiture passer, il est passé, hé, hey, tue-moi, viens prendre ton pouvoir, tue-moi. Parce qu'il a vu que, le bon Dieu, là, le monde entier. Et lui trouve que Dieu est injuste. Hein? Parce qu'il est plus... Non, Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Hein? C'est un bon film. Il faut chercher, vous allez trouver. Peut-être qu'on va acheter là, on va vous projeter ça ici, vous allez voir. C'est-à-dire qu'il a géré, il n'a même pas géré beaucoup de problèmes. Hein? Dieu a sélectionné quelques échantillons et il lui a dit maintenant, hé, règle ça ici. À peine il atterrit dans le pays, il dit, quitte là. Tu as vu là-bas, l'autre est en train de se disputer avec son mari. Va régler ça là-bas. À peine il descend là-bas, il dit, hey, regarde derrière toi là-bas, dans tel pays en Chine. Tu n'as pas vu que... Et puis quand il dort là, effectivement, Dieu lui parle, il est fatigué. Et il s'est couché par terre, dit, la voiture n'a qu'à passer sur lui. Dieu, viens prendre ton pouvoir, je ne veux plus. Si c'est moi qui suis déjà, il dit, non, je ne vais pas reprendre, tu gardes. Et tu sauras que Dieu là, il n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Ne cherchez pas à comprendre pourquoi il a fait. C'est là où vous découvrez que bon, c'est consciemment, je ne peux plus jamais pardonner. Vous êtes bloqué. Ne regardez pas ça. Pardonnez et oubliez. Et c'est ça qui brise les couples, comme j'ai dit. Le manque de pardon. Je pardonne, mais je n'oublie pas. Je pardonne, mais vraiment, ça là, c'est comme ça, il fait. Et puis vous cumulez. Et quand vous travaillez, même si vous ne pardonnez pas, votre vie, toute votre vie est bousillée. Toute votre vie est bousillée. Vous devez pardonner pour être heureux. Pardonner pour libérer votre cœur. Parce que quand moi j'ai lu le pardon, une puissance qui libère que le monsieur m'a donné. Et après, même il y avait eu des relations entre mon père et moi. Ce n'était pas la rancune, mais ça dit que je ne m'entendais pas avec lui sur cette époque. Je dis c'est injuste. Mon papa ne peut pas me faire ci, mon papa ne peut pas me faire ça. Vous savez ce que j'ai fini par faire? J'ai pris ce livre-là, j'ai acheté moi-même maintenant. Et je lui ai envoyé. Et on n'arrivait pas à se parler parce que je n'étais pas du tout d'accord avec mon papa. Mais j'ai acheté ce livre-là, je lui ai envoyé. Et j'ai dit à ma mère, je ne sais même pas aller moi-même. Hein. Et j'ai dit à ma mère, donne-lui que je lui ai envoyé un cadeau. Quand il a ouvert la vue, le pardon, une puissance qui libère. Quand il a fini de lire le livre, il m'a dit, vraiment. C'est-à-dire, lui-même, il était admiratif. Il dit, hein, tu vas me blaguer, tu m'as envoyé ça. Et chaque fois, il continue de lire ce livre jusqu'à aujourd'hui. Certainement qu'il trouve des choses dedans. Si la relation là, c'est fini, ça s'est rétabli entre lui et moi, l'ambiance s'est rétablie et puis c'est fini. On s'est parlé à demi, mais on a compris. Et dans ce livre, j'ai compris aussi qu'il y avait des attitudes que j'avais que je ne devais normalement pas avoir vis-à-vis de mon père. Oui. Et aujourd'hui, je suis plus heureuse. Parce que quand vous avez, par exemple, vous ne voulez pas pardonner. Par exemple, je ne pardonne pas mon papa. Je ne pardonne pas mon patron. Je ne pardonne pas mon mari. Je ne pardonne pas mes collègues. On finit ça, je vais chez qui pour faire quoi? Aucune porte ne s'ouvrait. Mais quand j'ai libéré mon cœur, je les ai tous libérés de la prison de mon cœur. Je suis aujourd'hui libre. Et quand je vois ces personnes-là, je dis, je leur fais du bien à cause de Dieu. Et parfois même, je me surprends, c'est-à-dire je rêve et je vois ces gens-là qui m'ont peut-être parfois offensé, qui m'ont fait des choses qui ne sont pas bien, que j'ai tellement pardonné à telle enseigne que Dieu va me dire, c'est la fille là aussi, elle est un peu bête, mais ce n'est pas bête. C'est-à-dire que je me retrouve en train de leur faire encore plus de bien, chercher à régler encore leurs problèmes dans des rêves, où Dieu me dit, hé, attention, c'est pas, tu vas pardonner, mais ce n'est pas pour aller faire ami avec, et ce n'est pas pour manger dans la même assiette. Attention, attention, attention. Vous devez pardonner pour être libre. Et vous savez que dans ce cas-là, c'est Dieu qui prend votre vengeance. Laissez seulement. Parce que votre vengeance humaine ne va nulle part. Au-delà de, il m'a fait ça, je ne vais plus parler avec lui. Bon, mon fils, tu vois telle famille là et nous là, on ne s'entend pas. Si tu les vois demain là, il ne faut jamais faire des affaires avec eux. À part ça là, il y a quoi? Si c'est des maris, bon, le couple sera brisé. Après ça, il y a quoi? La vie de ces enfants là. Les enfants vont traîner ça toute leur vie. Qu'est-ce que vous avez fait? Alors que si simplement vous pouvez pardonner, Dieu lui-même, même si vous êtes en situation d'aller jusqu'au divorce pour ce qu'on vous a fait là, vous pardonnez et laissez Dieu gérer votre affaire. S'il doit partir, c'est Dieu qui gère. S'il doit rester, c'est Dieu qui gère. Quand Dieu choisit pour vous, il fait tout pour vous, vous abandonnez, c'est-à-dire vous laissez le contrôle de toute votre vie à Dieu. C'est extraordinaire. Dieu fait des choses que vous-même là, vous n'avez même pas imaginé. Et c'est ça, on voit dans des couples, on fait des petits trucs, et puis la femme là se couche, dos comme ça, brown, l'homme aussi, dos comme ça, dos en nice. Quand vous commencez avec les dos en nice, vous ne réglez pas les petits problèmes là, vous allez devenir des parallèles. Oui, de nice là, vous venez à parallèle, vous ne vous croisez plus. De parallèle, vous allez à hanté. Hanté, c'est quoi? Toi, tu te couches au chevet, moi, je me couche comme ça ici. Et si vous venez à thé, et bonne terminaison. C'est fini. Dégâts, terminaison, c'est fini, la rupture est là. Pardonnez-vous. Parlez. Mais c'est-à-dire que ce qui fait que parfois les gens n'arrivent pas à pardonner, ils se disent l'autre, c'est une offense, c'est que vous ne savez pas pardonner. Parfois, si c'est en couple, le problème, au lieu de vous attaquer à votre conjoint pour dire c'est toi qui me fais ça à chaque fois, sortez le problème, mettez ça entre vous deux et discutez du problème. Au lieu de dire que l'autre est par exemple, tu es infidèle. Non, il n'est pas infidèle. Elle n'est pas infidèle. Non. Ça là que tu as fait là, c'est mauvais. Sortez le problème, mettez ça au milieu de vous deux. Et discutez. Ah non, ma femme là, elle ne sait pas parler aux gens. Qu'elle parle là vraiment? Non. C'est pas, il ne faut pas l'attaquer. Prends le problème. Amen. Et discutez objectivement. Et les hommes doivent savoir que Dieu a dit, vous êtes le chef de la famille. C'est vous qui devez amener la paix, le bonheur dans le foyer. Et Dieu vous dit dans le livre de Pierre, traitez vos femmes comme des gens de sexe faible. C'est vous qui devez dominer les situations. Encore qu'effectivement, il y a des femmes à qui Dieu donne la sagesse qui domine les situations. Dominez les situations, comprenez, et puis parlez-leur. Vous devez les protéger. On dit, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, jusqu'à ce qu'il a donné sa propre vie pour nous. Et toi, Marie, tu peux donner ta vie pour ta femme. On est venu en détail. Vous ne pouvez pas venir en détail. Dieu vous a dit, comme il a aimé l'Église là, vous-même, vous devez aimer. Les hommes là, je vous parle, c'est à vous que je parle maintenant. Vous devez aimer vos femmes comme ça, comme Christ a aimé le monde. Il était prêt, il s'est donné, il s'est sacrifié. Il a donné toute sa vie pour l'Église, qui est son épouse. Et vous vous dites que bon, son comportement là, c'est, elle est née comme ça. Tu n'avais pas vu avant de prendre ça pour dire que c'est ma femme. Mais les femmes là, je vous parle aussi. Ce n'est pas pour cela que vous allez faire les gnie, 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 et puis on vous parle, vous n'allez pas écouter. Non. Oui, on dit traitez-les comme les gens de sexe. Vous devez les respecter. Écoutez ce qu'ils vous disent. Bien sûr, parce que c'est un homme qui épouse une fille. Ce n'est pas une femme qui épouse un garçon. Non, un homme épouse une fille comme femme. Là, vous êtes content. Mais assumez un peu vos responsabilités. Vous devez amener la paix. Parfois, même, il y a des hommes qui disent, bon, ma femme là, on dit, mais ma femme là, j'attends, hein, si elle ne fait pas premier pas, c'est pas moi, elle fait premier pas ici, on va voir. Tu vas voir deuxième pas maintenant. Tu es l'homme. Amène l'homme. Quoi est le problème? Même si tu t'agenouilles pour ta femme là, c'est ta femme, non? C'est pas dans ta chambre. Tu t'agenouilles pas ailleurs. Et pourquoi vous êtes orgueilleux? Vous agenouillez pas ailleurs. Ou bien? Vous agenouillez ailleurs, non? Et pourquoi vous refusez de vous agenouiller devant elle? C'est que si vous allez vous agenouiller, il n'y a pas de condition. Mais c'est votre propre femme, femme aussi. Même si parfois, c'est le langage qu'il comprend. Si le gars, il est d'abomé, c'est ça, il adore. Monsieur là-bas, on dit d'ah, ouais. Eh, Diakolini, mais où est le problème? C'est ton mari, non? Hein? En école? Ah, d'accord, puisque Sarah dit que son mari, c'est son seigneur. Oui, c'est ce que Sarah dit. Sarah appelle Abraham mon seigneur. Donc, à genoux, toi, dis mon seigneur, c'est qui? Assouti. Ah, nia, alors qu'à gang. Et n'y zomé à gomé, bon. T'as n'y zomé, ben, y'a gué à souida, alors gang. Elles sont des diants. Ou bien, elles sont des diants, mais. Ah, n'y zomé, trop l'air à gbenoué. Ah, c'est comme ça. Oui?
Un passage que. Et qui, selon moi.
Oui?
Insiste un peu sur le pardon.
Mm-hmm.
On dit, ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi.
Mm-hmm.
Et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle.
Exactement. Ça,
c'est de peur que l'Éternel ne le voie que cela et ne lui déplaise. Et qu'il ne détourne de lui sa colère.
Mm. C'est Proverbe combien?
Proverbe 24, verset 17 et 18.
Proverbe 24, 17 18. C'est tellement vrai que... C'est-à-dire qu'il y a des gens, quand même ils pardonnent, et puis bon, ils voient que Dieu a jeté sa colère sur ce tête et dit, fille, il m'a fait ça ici. Je vous ai dit, non, c'est ça. Dieu n'aime pas ça. Tu ne peux pas te réjouir. Non. Non. On dit, ne te réjouis pas, s'il vous plaît, lisez encore. Ne te réjouis pas. Écoutez bien, parce que vous aimez trop ça.
Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi. Et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle. De peur que l'Éternel ne le voie, que cela ne lui déplaise et qu'il ne détourne de lui sa colère.
Parce que la colère de Dieu sur ces méchants-là, ce n'est pas pour dire, je vais les tuer parce que l'autre a pardonné. Non, c'est pour ramener leur cœur à Dieu. Dieu les éduque par cette colère-là. Pour toucher leur cœur, pour dire, tu vois, regarde, tu as vu ce que tu as fait à l'autre. C'est tel. Et c'est parfois à ce moment-là que les autres vous disent, Maouté a commencé. Son Dieu-là, ah, vraiment, il a vengé. Et parfois, il y en a qui sont touchés et qui donnent leur vie à Dieu. Mais pendant que Dieu est en train de faire son processus pour autre but, toi tu te dis, vive à Chonquichon, ah, c'est bien fait pour lui. Quand il a fait ça ici avant, c'est ça aujourd'hui, il n'a plus de maison. C'est bien fait, il dort dehors. Non, tu ne peux pas te réjouir de cela. Ça là, ce n'est pas l'attitude d'un chrétien. Non, pas du tout. On ne peut pas se réjouir du malheur des autres. Merci beaucoup. C'est très gentil. Donc, nous sommes déjà à la fin. On va prier un peu, que Dieu nous aide à libérer nos cœurs. On va se tenir debout et on va d'abord donner notre vie à Christ et nous allons prier un peu. On est d'accord? Je ne vais pas demander à quelqu'un, sortez, venez devant pour donner votre vie à Christ. Non, 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 non. Restez là où vous êtes. Mais, vous devez parler parce que la Bible dit, celui qui croit dans son cœur sera justifié. Mais celui qui confesse de la bouche parviendra au salut. Donc, c'est les deux actes ensemble. Tu crois dans ton cœur. Si tu penses que ta vie, là, Dieu peut venir prendre le contrôle. Et s'il prend le contrôle, mon frère, ma soeur, il faut savoir que ta vie va changer de direction. Et quand ça va changer de direction, Dieu va la redimensionner. Dieu va la restaurer. Ce que tu ne pouvais pas faire de ta propre force humaine, la grâce de l'Éternel viendra sur toi et tu pourras faire ces choses-là. Si lui ne conduit ta vie, qui pourra la conduire si ce n'est le diable? Et c'est seulement celui qui a créé quelque chose qui sait à quoi la chose est due N'est-ce pas? Et quand il y a des problèmes, c'est la seule personne qui peut réparer. Donc, ne pense pas qu'on veut te donner Christ de façon doctrinale, de façon sectaire. Non, c'est Jésus-Christ, celui qui s'est sacrifié à la croix du calvaire. Et il a dit, celui qui accepte lui laisser sa vie là, c'est cette personne-là qui reçoit le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et quand tu es enfant de Dieu là, c'est différent. Tu n'es plus une simple créature de Dieu, mais tu deviens un enfant de la maison du royaume de Dieu. Et tu as du prix à ses yeux. Alors si tu veux maintenant donner ta vie à Jésus, tu vas commencer par fermer lentement tes yeux. Vous répétez. Ceux qui veulent donner leur vie à Christ, vous répétez. Mais n'écoutez pas ceux qui sont à côté de vous. N'ayez pas honte de lui laisser votre vie. Parce qu'il dit, celui qui a honte de moi, ici sur la terre, moi aussi j'aurai honte de lui devant mon Père. Mais si jamais lui a honte de vous devant son Père, c'est plus grave. Il vaut mieux l'accepter dans votre vie. Ne regardez pas celui qui est à côté de vous. Laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. Quand je vais dire quelque chose, tu vas répéter. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je te laisse le volant de ma vie. Prends maintenant l'absolu contrôle. Car je ne savais pas que tu t'es sacrifié pour moi. Et j'irai dans le monde pour chercher des solutions. Maintenant, je te dis merci. Car tu m'as parlé. Et c'est pour cela que je m'abandonne à toi. Que ton Esprit Saint se manifeste en moi. Que ton Esprit Saint prenne place en moi. Et qu'il me conduit dans toutes mes pensées, dans tous mes actes. Seigneur, habite en moi. C'est pour cela que je confesse que Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur. Et je décide de marcher avec lui. Je décide de lui obéir. Accorde-moi, Seigneur, la capacité. Parce que tu es le bon berger. Accepte-moi maintenant dans ta bergerie. Et conduis-moi pour toujours. Au nom de qui Jésus, j'ai prié. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te bénir, nous voulons te dire merci, Seigneur. Car nous savons que par ta parole, Seigneur, tu as circoncis nos cœurs. Même les cœurs les plus endurcis, Seigneur, tu les as transformés en des cœurs de chair. Éternel, mon Dieu, mon roi, je prie maintenant que cette capacité de pouvoir pardonner, Seigneur, soit accordée à tout un chacun de nous dans le nom de Christ Jésus. Nous savons, Seigneur, que si tu nous donnes des cœurs de chair, Seigneur, ton Esprit Saint va nous amener, Seigneur, à pardonner chaque fois, autant de fois que nous pouvons dans le nom de Christ Jésus. Amen. Je prie, Seigneur, que toutes les portes qui nous sont fermées, parce que nous n'avons pas pardonné, parce que nous avons gardé des frustrations dans nos cœurs, que ces portes maintenant s'ouvrent par ta grâce au nom de Christ Jésus. Amen. Je prie, Seigneur, que celui qui a été frustré dans son emploi, Seigneur, et qui a gardé cette rancœur dans son cœur, éternel Dieu, je prie maintenant que tu l'aides à se libérer définitivement au nom de Christ Jésus. Amen. Pour bénéficier maintenant de sa restauration. Je prie maintenant, Seigneur, que ton sang nous lave et efface, Seigneur, les actes dont les ordonnances nous condamnent. Tout ce que nous avons fait, Seigneur, je prie que tu renouvelles notre intelligence, que tu nous rafraîchisses la mémoire, Seigneur, afin que rien ne reste dans notre cœur sans bénéficier du pardon, mais que nous puissions, Seigneur, balayer nos cœurs, revoir encore nos cœurs, Seigneur, pour libérer toutes choses dans le nom puissant de Christ Jésus. Je prie, Seigneur, que par cette capacité de pardon que tu vas nous accorder, éternel Dieu, que tu restaures tout un chacun de nous, Seigneur. Que tu restaures maintenant, Seigneur, notre vie professionnelle. Que tu restaures, Seigneur, nos foyers. Que tu restaures, Seigneur, l'éducation et la vie de nos enfants. Que tu restaures, Seigneur, toute chose qui a besoin de restauration dans nos vies au nom de Christ Jésus. Seigneur, tu as dit que dans ta maison, il n'y aura point de stérile. C'est pourquoi je prie que des cœurs stériles qui ne pardonnent point ne soient au milieu de nous. Que ces cœurs soient ôtés, Seigneur, afin que tu nous donnes maintenant un cœur rempli de ton amour pour nous-mêmes et pour ceux qui nous offensent dans le nom de Christ Jésus. Seigneur, je prie, parce que tu as dit que si c'est l'amour sentiment, nous n'y arriverons jamais. Mais si ce n'est pas ton amour agapao, Seigneur, nous pouvons faire toutes choses. Je prie que cet amour maintenant, Seigneur, se manifeste dans nos vies au nom de Christ Jésus. Je prie, Seigneur, que toute chaîne, Seigneur, qui nous garde encore dans les liens de captivité, parce que nous n'avons pas pardonné. Toute chaîne, Seigneur, de non-pardon qui viennent maintenant, Seigneur, depuis notre famille, de génération en génération, qui nous lie, que ces chaînes soient brisées au nom de Christ Jésus. Nous prions, Seigneur, parce que tu as dit que nos pères, Seigneur, ne poseront pas des actes pour que nous, nous les payions, Seigneur. C'est pourquoi je brise maintenant toutes sortes de malédictions par le non-pardon de nos générations, de nos familles, dans le nom de Christ Jésus. Éternel des armées, tu as dit que tu es venu, Seigneur, pour nous libérer, afin que nous soyons maintenant des gens libres qui proclament ta gloire, Seigneur. Qu'il en soit ainsi pour nous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous savons que tu fais toutes choses, afin que nous puissions témoigner au monde entier que tu es Dieu, que tu ne changes point. Je prie aussi pour tous les malades. Seigneur, visite-les encore ce soir. Ce que tu as commencé dans leur vie, Seigneur, depuis dimanche, je sais que tu vas l'achever. Et par la foi, Seigneur, je sais, éternel Dieu, que nous allons recevoir des témoignages, Seigneur, pour ce que tu as fait dans leur vie, au nom de Christ Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi, celui qui a besoin de restauration de son sang, fais-le pour la gloire de ton nom. Celui qui a besoin, Seigneur, de voir partir les symptômes de sa maladie, que par ton sang qui a été coulé à la croix du calvaire, Seigneur, les purifie et ôte tout symbole de maladie, au nom de Christ Jésus. Libère-les, Seigneur, libère leur cœur aussi, Seigneur, afin qu'ils soient mentalement guéris pour voir leur guérison physique aussi s'accomplir dans le nom de Christ Jésus. Tu es béni, Seigneur, parce que tu nous raccompagnes dans nos demeures respectives, sains et saufs. Tu ordonnes, Seigneur, à tes anges de camper autour de nous. Et cette nuit encore, ce que tu as commencé, cette faveur et cette grâce, Seigneur, tu vas continuer dans chacune de nos demeures. Éternel des armées, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Au nom de Christ Jésus, nous avons prié. Amen.
Mon ami, écoute ton Dieu. Mon ami, écoute ton Créateur. Il y a de l'espoir pour toi en ce monde.
Vous venez de suivre un séminaire de formation du Club Jésus pour réussir, animé par Edgar Guidibi et Hermione Huigban. Le Club Jésus pour réussir a pour vocation de vous aider à vous épanouir et à prospérer en démontrant par les fruits qu'il vous fera porter que Jésus est bel et bien le chemin, la vérité, la solution et la vie.
Christ est la solution. Décharge-toi sur lui.
Le Club Jésus pour réussir est situé à Sainte-Rita, au bord des pavés non loin de la station MRS. Vous pouvez nous joindre en visitant le www.jesuspourreussir.org ou en appelant le 00229 94 01 54 26. Club Jésus pour réussir, une initiative de Global Service Plus qui évolue dans le secteur de l'immobilier, de la formation, du marketing et dans bien d'autres. Visitez le www.globalserviceimo.com ou appelez le 00229 94 97 07 07 pour en savoir plus. Que Dieu vous bénisse.
Pourquoi continuer à souffrir ainsi? Est-ce que la solution